Vous écoutez
RMC.
5h-7h.
5-7. Le Morning RMC.
Élise Dangean, Mathieu Béliard.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur RMC et RMC Story, il est 4h55 et je suis ravi de vous retrouver Élise Géraldine.
Nous aussi on est ravis.
Ça va ?
Bah, on imagine que toi tu vas très très bien.
Moi je vais très très bien. Moi je vais très très mieux.
Déjà.
Comme on dit. Non, ravi de vous retrouver, on va débattre de l'actualité, hein. C'est ce qu'on fait tous les matins. Et puis bien sûr on va revenir sur l'histoire du foot qui s'écrit sur RMC.
C'est la balle de Ligue des Champions. Si Safonov l'arrête, c'est gagné. Si Safonov l'arrête, c'est gagné. Ou si Gabriel tire à côté, c'est gagné. La course d'élan, c'est parti pour Gabriel. Oh, c'est gagné.
Et le PSG est entré dans la légende avec sa deuxième Ligue des Champions consécutive.
Alors d'abord le week-end de foot, de fête. Vous êtes supporter du PSG ou pas, vous intervenez, est-ce que vous avez vibré, est-ce que vous êtes content, est-ce que vous êtes impressionné par le Paris Saint-Germain? On revient sur cette finale et avec vous, d'ailleurs on commente au 32-16, je vois qu'il y a déjà des messages sur le WhatsApp RMC. On se projette sur la suite pour Paris, on se projette aussi sur le calendrier du foot avec la Coupe du Monde, ça c'est dans 10 jours maintenant.
Martin Bourdin nous racontera le mondial américain en direct dès 5h ce matin avec un tout nouveau rendez-vous et Virginie Fulpin pour un journal de la Coupe du Monde désormais tous les jours à 5h40. Ça promet. Hein.
Allez, on revient sur la Ligue des Champions et la question se posera aussi d'ailleurs avec le mondial hein, que tu évoquais. Est-ce qu'on est capable de faire la fête sans dégâts, sans tout casser? Près de 800 interpellations ce week-end, des blessés, un mort en marge des festivités, des célébrations.
C'est pas le foot ça, c'est pas le sport, c'est pas ce qu'on aime. On sera intraitable avec ceux qui ont été attrapés, on le veut plus voir ça, fini. On en a ras-le-bol.
Alors c'était anticipé, mais est-ce que ça a été correctement appréhendé par les forces de l'ordre, par les autorités? Vous avez peut-être assisté à des scènes de violence, de casse ou de pillage. Et alors surtout, comment faire pour faire la fête en France sans craindre pour les participants, les riverains, les commerces? C'est le débat ce matin avec vous au 32-16 et en direct vos messages sur le WhatsApp RMC au 06 12 424 424.
Alors ce matin aussi, on va sauver nos cafés, nos bistrots. On va parler en tout cas de cette proposition des écologistes, taxer les grandes surfaces pour financer le sauvetage des cafés et des petits commerces. Le constat, la disparition un à un des cafés et des bars.
Vous le constatez peut-être près de chez vous, vous le déplorez sûrement. Est-ce que nos communes, nos quartiers perdent leur âme quand on ferme un bistrot? Pour les députés écolos qui défendent l'idée, la solitude tue plus que le tabac, l'alcool ou la pollution. Alors est-ce qu'il faut faire payer les grandes surfaces pour la mort de nos centres-villes, cafetiers, commerçants, mais aussi clients de ces établissements? On vous attend ce matin.
Vous avez votre café, vous?
Ouais.
Votre petit bistrot?
Oui.
Près de chez toi?
Au pied.
Auprès du boulot? Non, parce qu'on travaille, on aura décalé. Ouais. Non, mais avant, ouais, ça dépend des horaires de travail, Géraldine.
Oui, moi j'ai un petit. Une brasserie.
Oui, c'est
bar,
toujours le même. Passe, ouais. On vous reconnaît, on sait ce que vous voulez. Moi, ouais. C'est que quand en général, on te sert tout de suite le truc sans que tu.
C'est bon, la voilà. Famille.
Vous avez, vous aussi, peut-être envie de rendre hommage à un petit café près de chez vous, vous le faites au 32-16. Et puis un dernier mot, on a appris hier que près d'un demi-million de Français ont demandé l'aide carburant pour les grands rouleurs, l'aide qui doit parvenir sur les comptes en banque dans une dizaine de jours. Simplement, est-ce que vous avez fait les démarches? Est-ce que c'est simple? Est-ce que ça marche bien? On a envie d'en savoir plus avec vous, au-delà de ce que peut dire Bercy sur ce sujet. On vous attend au 32-16.
Et puis on va jouer au mot caché à n'importe quel moment dans le morning. On va prononcer plusieurs fois un mot qui sort un peu de l'ordinaire. Si vous l'identifiez, vous envoyez mot au 7-32-16. Mot au 7-32-16, et le cadeau de la semaine, il est génial.
Ah oui.
Un cadre connecté.
Ouais.
En gros, vous envoyez directement avec votre téléphone la photo, vous pouvez rafraîchir, réactualiser. Et si vous offrez un cadeau à maman, c'était la fête des mères hier, mais c'est la fête des mères tous les jours, et ben vous pouvez lui diffuser une photo en live. Tiens, j'ai fait ça ce week-end, j'étais avec les joueurs du Paris Saint-Germain, regarde maman, et hop, on lui drop la photo.
Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Vous voulez gagner ce cadre photo connecté? Ouais, je sens que t'en as envie. Et moi, autant j'ai la station météo en passion, autant
c'est le cadre photo.
Allez, le cadre connecté d'Agfa Photo, vous envoyez mot au 7-32-16 quand vous entendez un mot qui sort de l'ordinaire.
Il est 5h sur RMC, RMC Story, très bon réveil à tous.
5-7, le Morning RMC.
Et à 5h, c'est l'heure de retrouver Quentin Vinet pour le journal. Bonjour Quentin.
Bonjour à tous les deux, bonjour à tous.
À la une, la fête hier soir encore à Paris.
47 000 personnes au Parc des Princes. C'était le point final des festivités pour le retour des joueurs du PSG avec leur deuxième Ligue des Champions. Contraste avec la soirée de samedi et les incidents partout en France. Près de 800 interpellations, vous entendrez la condamnation d'Emmanuel Macron. Et puis je vous signale que c'est ce matin que le SMIC augmente de 35 euros net pour plus de 2 millions de Français.
La fête s'est prolongée jusqu'à tard hier soir à Paris.
Alors les joueurs avaient atterri en milieu d'après-midi à l'aéroport de Roissy, escortés par des milliers de motos. C'était impressionnant, jusqu'au Champ de Mars où 100 000 personnes les attendaient au pied de la Tour Eiffel avant d'être reçus à l'Elysée, on va en reparler, puis célébrés dans la soirée devant 47 000 personnes, donc au Parc des Princes. Morgane Maury était pour RMC.
One More Time des Daft Punk, une fois de plus. Un hymne tout trouvé pour un doublé si rare en Ligue des Champions. Les chanteurs Fally Ipupa et SDM pour faire patienter. Désiré Doué et Bradley Barcola dansent sur le tapis qui mène à la scène. Ousmane Dembélé, buteur en finale et héros du parc. Une joyeuse pagaille qui empêche le président Nasser Al-Khelaïfi d'en placer une pendant 5 minutes. Marquinhos, capitaine heureux.
Moi j'ai dit c'est un rêve qui est devenu réalité. Et moi j'ai vu ce moment comme le dernier jour de ma vie.
Un stade plein et des supporters émus.
Ah, ça a été le plus beau jour de ma vie avec l'année dernière. C'était trop bien, j'ai trop aimé.
Là on a les larmes aux yeux quoi, ça nous fait plaisir. On a souffert des années et là maintenant on voit le bonheur.
Jamais 203 l'année prochaine on prend.
Ils rêvent maintenant d'un triplé. Alors en attendant 2027, ils peuvent déjà reprendre le nouvel hymne du club scandé par Marquinhos.
Bon, vous entendez Marquinhos, le capitaine du Paris Saint-Germain, qui chantait très souvent hier durant ses festivités. On revient l'année prochaine pour la troisième, ça c'est ce qu'a dit également Ousmane Dembélé, qui va rejoindre les Bleus demain à Clairefontaine avec les autres internationaux parisiens, évidemment pour préparer la Coupe du Monde.
Et alors on peut le dire, la soirée d'hier contrastée avec les violences de samedi soir.
Des violences qu'Emmanuel Macron a condamnées, c'était lors de la réception à l'Elysée.
Malheureusement, on a vu... Et je ne veux pas qu'on s'habitue à ça, et personne n'a envie qu'on s'habitue à ça. Des scènes de violence inacceptables à Paris et dans d'autres villes. Et donc je veux remercier le ministre de l'Intérieur, le préfet de police, l'ensemble des équipes qui se sont mobilisées face à ce qui est inqualifiable. Ce n'est pas le foot, ça. Ce n'est pas le sport, ce n'est pas ce qu'on aime. Donc merci à nos policiers, à nos gendarmes. On sera intraitable avec ceux qui ont été attrapés. On ne veut plus voir ça. Fini. On en a ras-le-bol.
On ne veut plus voir ça fini, on en a ras-le-bol, vous entendez ce que dit le président. Alors dans le détail, et d'après les chiffres donnés par le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, ce sont 780 personnes qui ont été interpellées dans la nuit de samedi à dimanche. Un chiffre en hausse de 32% par rapport aux incidents de l'année dernière lors du premier sacre des Parisiens. Un peu plus de 450 gardes à vue, essentiellement pour des atteintes aux personnes dépositaires de l'auto public. Autrement dit, pour s'en être pris aux 22 000 forces de l'ordre qui étaient mobilisées. Et pas seulement à Paris, mais dans 71 villes de toute la France, Philippine Boulet.
Comme à Montluçon, Rouen, Saint-Étienne ou encore Montpellier. Selon le ministre de l'Intérieur, dans une quinzaine de villes, à Clermont-Ferrand par exemple, les scènes de violence se sont accompagnées de pillages, principalement dans des magasins de vêtements ou d'articles de sport. À Pau, c'est la bibliothèque municipale qui a été vandalisée. Une dizaine de personnes a forcé les portes d'entrée et s'en est pris au mobilier. À Niort, 5 personnes ont été interpellées après des tirs de mortier, des dégradations et le pillage d'une boutique.
On a eu un commerce de basket qui a été cambriolé, ce qui est plus que regrettable. Ça n'est jamais arrivé. C'est extrêmement choquant.
Le maire Jérôme Baloge s'interroge sur la présence de nombreux mineurs samedi soir.
Tous n'étaient pas à commettre des actes. Mais que font des enfants, parce que ce sont des enfants de 11 ans, 12 ans, 13 ans, seuls, non accompagnés dans les rues.
À quelques semaines de la Coupe du Monde de football, l'élu compte mettre en place avec la préfecture des actions de prévention pour responsabiliser les parents.
Alors il y a un jeune de 24 ans qui est mort, c'était dans la nuit samedi à dimanche à Paris dans un accident de motocross sur le périphérique. Il y a également 3 blessés dans un état grave, dont une femme qui était attablée à une terrasse dans le 10e arrondissement de la capitale quand elle a été renversée par une voiture avec à l'intérieur 8 personnes qui venaient de prendre la fuite après avoir tiré des mortiers d'artifice sur des policiers.
On vous attend ce matin au 32-16 sur les deux volets, les deux faces de cette même pièce, la fête. D'abord vous avez vibré ce week-end, le foot, vous aimez Paris ou le foot tout simplement, vous réagissez au 32-16 impressionné par ce deuxième titre des Parisiens. Et puis cette question qui se pose et qui va se poser avec la Coupe du Monde qui arrive, est-ce qu'on peut faire la fête sans tout casser, sans dégradation, sans blesser, comment faire surtout? 32-16, on en parle avec vous ce matin et sur le WhatsApp RMC au 06 12 424 424.
400 personnes participaient hier après-midi à une battue à Fleurance dans le Gers pour tenter de retrouver la jeune Liana. C'est une adolescente de 11 ans qui a disparu vendredi à sa sortie du collège, raconte un témoin, dans le véhicule d'un homme. Elle était à ce moment-là, un homme de 41 ans qui a été interpellé est placé en garde à vue.
Il est 5h05 sur RMC et c'est ce matin que le SMIC augmente pour un peu plus de 2 millions de Français.
C'est un effet mécanique lié à l'inflation. Il augmente de 2,41% précisément. Ça fait 35 euros net par mois pour une personne qui est à temps plein. Et alors avec cette hausse, ce sont 126 branches, d'après les chiffres du gouvernement, 126 branches qui ont désormais des salaires démarrant en dessous du SMIC. On ne met pas le couteau sous la gorge, assure le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, mais ces secteurs sont fortement incités à augmenter les salaires sous peine de sanctions, car pour les salariés en question, bah ça devient problématique. Écoutez avec Antonin Audion.
C'est le cas d'Isabelle, 59 ans, employée dans un abattoir. Elle venait de dépasser le niveau du SMIC au bout de 25 années dans cette même entreprise. Mais à partir d'aujourd'hui...
Le SMIC, il va être 4 euros plus cher que moi. Je trouve ça inadmissible.
Même situation pour Claire, 10 ans d'ancienneté dans ce même abattoir, où elle a occupé de nombreux postes. Son salaire a lui aussi été rattrapé par cette revalorisation du SMIC, si bien qu'un débutant sans aucune expérience touchera le même salaire qu'elle.
C'est pas normal du tout. On a de l'expérience plus de l'ancienneté. Ce serait pas normal qu'il gagne plus cher que moi.
Dans ces entreprises, en effet, les premiers échelons de la grille salariale sont encore sous le SMIC, c'est illégal et cela concerne 70% des branches professionnelles selon le ministère du Travail. Une stratégie pour tirer les salaires vers le bas selon Thomas Vacheron, secrétaire confédéral de la CGT.
Dans les grilles, quand les niveaux sont complètement tassés et complètement en dessous du SMIC, ça tire mécaniquement tous les salaires vers le bas car les plus bas niveaux ils sont en dessous du SMIC et donc du coup ça tire tous les niveaux et tous les salaires vers le bas.
Les entreprises ont 45 jours pour lancer des négociations avec les partenaires sociaux et se mettre en conformité. Sans accord d'ici à la fin de l'année, des sanctions pourraient tomber, menacent déjà le gouvernement.
Alors c'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron va recevoir 200 grands patrons prêts à investir en France aujourd'hui au château de Versailles pour la 9e édition du sommet Choose France. C'est le rendez-vous économique du président. L'année dernière, 40 milliards d'euros d'investissements étrangers avaient été annoncés. Cette année, ce record sera déjà battu puisqu'un géant japonais de la tech a déjà promis d'investir 75 milliards d'euros. Le grand patron de ce géant japonais sera même reçu à l'Élysée tôt ce matin.
C'est la deuxième semaine qui commence à Roland-Garros et il reste une Française.
Oui, c'est à signaler, oui. C'est Diane Paris qui jouera aujourd'hui en huitième de finale contre une adversaire, mais alors largement à sa portée, Léna Marjac.
Et quoi de mieux que d'être pour la première fois en deuxième semaine d'un grand chelem à la maison. Roland-Garros, c'est comme chez elle ou presque. Diane Paris a grandi à quelques pas du stade. Et ce huitième de finale aujourd'hui est largement abordable face à Maja Chwalinska, une Polonaise 114e mondiale.
Une belle opportunité de pouvoir jouer une fille comme ça en huitième de finale de grand chelem, capable de sortir un très gros niveau de jeu aussi. On a envie et on se voit aller plus loin.
Plus loin, sa coach aussi y croit et l'espère. Julie Coin s'occupe de Paris depuis l'hiver dernier.
Faudrait qu'elle cède comme elle a très bien fait du public. Elle joue sur ça et la confiance qu'elle a accumulée ces derniers temps.
Au-delà de sa confiance et de son calme, Diane Paris s'appuie sur son revers à une main qui fait des dégâts sur terre. Pour Florence Serra, consultant RMC Sport, elle s'avance clairement en favorite sur ce match.
Là, on l'attend. On attend à ce qu'elle gagne, continue juste à faire ce qu'elle fait. Comme Loïse Boisson l'année dernière, on a envie qu'elle y aille aussi en quart, en demi, et pourquoi pas plus.
Alors pourquoi ne pas marcher dans les pas de Loïse Boisson, demi-finaliste surprise l'an passé? Diane Paris l'a confié. Si Loïse l'a fait, alors pourquoi pas elle aussi?
Et au lendemain de la qualification, notamment de la pépite brésilienne de 19 ans, João Fonseca. Je vous donne le résultat de la soirée en rugby, c'est le Racing qui allait gagner à Clermont 41-13, avant-dernière journée de top 14. Gros coup pour les Racingmen qui reviennent dans les 6 premiers. Un petit peu plus tôt, c'est Bordeaux, champion d'Europe, qui avait perdu 27-22 à Toulon.
Merci Quentin, c'était le journal de 5h sur RMC, RMC Story. Très bon début de semaine à vous. Avec RMC, on revient sur ces... C'était le grand sujet à la une de votre journal. Mohamed est en ligne avec nous dans le Gard. Bonjour Mohamed.
Bonjour.
Alors, je vois que vous êtes agent nucléaire. Pardon,
Moi, je voyais supporter de l'OM avant, mais
aussi,
bon.
Oui, mais je me demandais, agent nucléaire, vous faites quoi dans la vie, Mohamed?
Du coup, je travaille dans une centrale nucléaire qui est près de, entre Nîmes et Marseille. Mmh. Ça s'appelle la centrale nucléaire du Tricastin.
Oui. Ah oui.
Du coup, pour le grand groupe EDF, donc, nous produisons d'électricité, quoi. Voilà.
Très bien. Mohamed, c'est les événements de ce week-end qui vous ont fait réagir.
C'est ça, sur le fait, pas que la victoire de Paris, mais je parle en général, au niveau du foot français. Je trouve qu'on a une super mauvaise image de nous, du football, de ce que pour nos enfants, pour l'image de ce sport. Et quand je vois des vidéos sur les réseaux, sur YouTube, sur TF1, quand je vois le motard qui s'est fait, qui a percuté. Qui est mort en scooter.
Par raison,
ouais. C'est ça, exactement. C'est une catastrophe quand je vois l'image des supporters qui sautent sur les voitures de personnes âgées, de jeunes femmes qui se retrouvent au milieu de bouchons, qui font exploser leur pare-brise, exploser leurs vitres. Mais on va où? Quelle honte.
Mais comment on fait, Mohamed, pour mettre fin à ces images justement qui ne rendent pas honneur au foot français, selon vous?
Moi, je vous dis la vérité. Il faudrait que. Enfin, je suis pas souvent d'accord avec le président de la République qu'on a actuellement, Mais sur le fait de ce qu'il a dit, de ce qu'il a dit devant les Parisiens et devant la France entière, c'est que des fois, il faut être ferme. Il faut être encore plus ferme. On est trop gentil avec eux, en fait. Ils nous font honte. Ils nous font honte. C'est-à-dire que n'importe quel touriste, moi, je fais venir de la famille. Je fais venir la famille à Marseille. Ouais. On gagne la Ligue 1, même s'ils n'y croient pas trop.
Non, mais allons-y, on continue.
Je les fais venir. On gagne la Ligue 1. Ils viennent, ils voient qu'on casse tout. Ils vont me dire, mais on est où ici? Nous, chez nous, quand on gagne, on a la joie. Regardez le RC Lens. Ils ont gagné. Est-ce qu'il y a eu un débordement? Que dalle, rien du tout. Rien du tout.
Et pour vous, ça ternit l'image des supporters de football en général. Et Mohamed, vous l'avez dit d'ailleurs sur ce ton-là, sur le sport que vous aimez et les supporters que vous aimez, les images de ce week-end qui font du mal à l'image des supporters. Alors, plus de fermeté, dit Mohamed. De quelle manière? On continue d'en parler, évidemment. On va avancer sur ce sujet avec vous ce matin, amateur de foot ou pas, hein, d'ailleurs, au 32-16. Vous n'hésitez pas, vous avez la parole ici, vous le savez.
Il est 5h12 sur RMC. Et dans un instant, c'est l'heure de la solution conso. Ça déménage aujourd'hui, Géraldine?
J'ai plein d'astuces pour vous aider à déménager sans trop dépenser.
Mais avant cela, c'est une nouveauté, le choix de la rédaction, un choix en direct de Miami, aux États-Unis. Bonjour Martin Bourdin.
Bonjour à tous.
Bonjour Martin. Martin, vous êtes notre envoyé spécial aux États-Unis. Alors, comment l'Amérique de Donald Trump s'apprête à accueillir cet événement mondial? La Coupe du Monde 2026, ça débute le 11 juin et ça commence dès maintenant sur RMC. Martin, est-ce que les Américains ont la tête au mondial déjà?
Alors, je vais pas vous faire une réponse d'Américain ce matin, Élise, mais une réponse de Normand. Oui et non.
A tout de suite, en direct de Miami, s'il vous plaît, sur RMC et RMC Story.
Jusqu'à 7h.
5-7, le Morning RMC.
Élise Dangean, Mathieu Béliard.
Il est 5h13 sur RMC et RMC Story, c'est l'heure du choix de la rédaction.
RMC, le choix de la rédaction.
La Coupe du Monde 2026, ça commence dès ce matin sur RMC et toute cette semaine dans le choix de la rédaction en direct. On va prendre la température aux États-Unis, comprendre comment l'Amérique de Donald Trump se prépare à accueillir le monde.
Bonjour Martin Bourdin.
Bonjour Mathieu, bonjour Élise, bonjour à tous.
Notre envoyé spécial aux États-Unis, vous êtes au moment où on se parle sous les palmiers de Miami. Vous y êtes depuis la fin de la semaine dernière, Martin. Racontez-nous, ça sent la Coupe du Monde déjà ou pas?
Est-ce que vous me croyez, Élise, Mathieu, si je vous dis que j'ai appris à certains Américains que des matchs avaient lieu à Miami à partir du 11 juin?
Malheureusement, connaissant la passion du soccer des Américains.
Exactement, ça s'est passé plusieurs fois depuis que je suis arrivé. Et c'est la preuve que pour le moment, cette Coupe du Monde, elle a du mal à prendre. Invisible à l'aéroport, pas le moindre produit dérivé là-bas. C'est pas beaucoup mieux en ville, hormis autour du site de la future fan zone où tout est en train d'être tranquillement installé. Ailleurs, ce mondial n'est pas vraiment présent, ni dans les rues, ni dans les conversations.
Mais alors, ils parlent de quoi les Américains, Martin?
Eh bien, comme les Français, le sujet de préoccupation numéro un, c'est de finir les fins de mois. Les Américains aussi, comme en France, subissent les conséquences de la guerre au Moyen-Orient. J'ai pu m'en rendre compte sans trop de difficultés en posant mon micro devant une station-service.
Avant, un plein d'essence, c'était $40. Là, regardez, on est déjà au-delà. C'est autour de $60-65 maintenant.
Ici, les clients paient autour de $4.50 le gallon d'essence. C'est à peu près l'équivalent de 3,5 litres. Alors, c'est moins cher qu'en France, mais c'est 50% de plus qu'au début du mois de mars.
Je n'ai jamais vu des prix aussi élevés de toute ma vie. Ce n'est vraiment pas un plaisir. J'aimerais acheter des vêtements, mais je ne peux pas. Alors, j'essaie de trouver des produits moins chers, des magasins moins chers pour économiser de l'argent. Je réfléchis aussi à prendre un logement plus petit. Je n'y connais rien au foot, mais on ne devrait pas célébrer quoi que ce soit en ce moment.
L'essence coûte plus. Pardonnez-moi. L'essence coûte plus cher. Non, pas de problème. L'essence coûte plus cher. La nourriture aussi, Mathieu. Les œufs, le lait, la viande notamment. On mange moins, me disait un peu plus tôt dans le week-end, un peu honteux, un père de famille à la sortie d'un supermarché.
Donc si on comprend bien, Martin, on n'a pas trop envie de faire la fête là à 10 jours de la Coupe du Monde.
Alors ça dépend à qui on parle en fait, parce qu'il y en a quand même qui sont à fond, ce sont les Latinos ici à Miami, les nombreux habitants de la ville originaire d'Amérique du Sud. Pour eux le foot c'est presque une religion. En fait ce qu'on espère ici à Miami, c'est surtout que cette Coupe du Monde permette de changer un petit peu les idées. C'est Brian, un père de famille, qui résume ça le mieux.
Everybody's looking for an out.
Tout le monde cherche un moyen de se changer les idées et ça sera la Coupe du Monde. Ça va nous permettre de faire quelque chose qu'on a vraiment envie de faire, de profiter de la vie, peu importe ce qu'il se passe. La situation actuelle nous affecte tous. Donc la Coupe du Monde, c'est une bénédiction pour nous changer les idées et profiter. Get away during that time and
enjoy themselves. On va voir si ça suffira. Tout ça a redonné le moral aux Américains. Récemment, un sondage expliquait que plus de la moitié d'entre eux estimaient être dans une situation économique pire qu'après la crise économique de 2008, par exemple.
Et alors, Martin, vous nous disiez ce matin que les Américains qui ont suivi un peu le sacre du PSG pour la Ligue des Champions ont beaucoup réagi aux violences qu'on a vues éclater dans Paris ce week-end.
Ouais. Et exactement, j'ai pu m'en rendre compte ce dimanche là en discutant un petit peu avec des fans de foot, des personnes qui portaient des maillots de foot, qui ont vu les images de ces débordements. Et c'est justement un petit peu ce qui inquiète dans les villes américaines, à Miami et pas seulement, la question de la sécurité publique, ça inquiète un petit peu. Ils ont vu ces images, ils disent bah c'est vrai qu'on a hâte de voir les populations sud-américaines, européennes venir avec leur ferveur, avec leur passion. Par contre, faut que les gens aient des comportements un peu normaux, entre guillemets. Faut éviter d'en arriver à ce qu'on a pu voir dans les rues de Paris après la victoire du Paris Saint-Germain. Et ça, bah, ça fait un petit peu peur à certains habitants de Miami, effectivement.
Merci beaucoup, Martin Bourdin. Merci de partager aussi ce sentiment des Américains. Je rappelle que vous êtes notre envoyé spécial RMC à Miami, aux États-Unis. On va aussi vous retrouver cette semaine à Houston et à San Antonio. Tiens, cette semaine, quelque chose me dit qu'on reparlera de Victor Wembanyama aussi, puisqu'on parle de San Antonio. Gros week-end de sport pour les Français. Je vous rappelle qu'RMC est radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. 100% des 104 matchs commentés en direct sur RMC et sur notre radio digitale 100% Coupe du Monde à retrouver sur l'application et sur le site RMC à partir du 10 juin, bien entendu. On comprend les Américains, ils n'ont pas forcément envie de voir arriver des hordes de supporters qui casseraient tout. On a envie de célébrer le football, de célébrer les matchs, de faire la ribouldingue, pas forcément de foutre le feu aux abribus, quoi. Donc merci beaucoup Martin Bourdin d'avoir partagé ce sentiment des Américains. On continue avec le sentiment des Français ici au 32-16.
Et il est 5h18 sur RMC, c'est l'heure des choix de la bande et c'est l'heure d'accueillir Arthur Asquin dans la bande. Salut Arthur.
Bonjour Élise, bonjour Mathieu, bonjour Géraldine et bonjour à tous.
Ça va bien Arthur?
Oui, ça va.
Solennel.
Week-end un peu compliqué, mais tout va bien.
Bon, puisqu'on était aux États-Unis, je vous propose qu'il reste encore deux petites minutes. Donald Trump boude.
Ah oui?
Oui, ça arrive. Donald Trump menace. Bon, ça, c'est tous les jours. Alors, cette fois, le président américain est vexé comme un pou parce que personne ne veut venir chanter pour lui. En fait, la Maison-Blanche prévoyait un concert XXL pour célébrer les 250 ans de l'indépendance américaine le 4 juillet prochain. Sauf que bah, les artistes boycottent les uns après les autres. Sur les 9 annoncés, plus de la moitié a déjà fait défection. Notamment le groupe légendaire The Commodore. Tous refusent de servir de caution politique. Mais Donald Trump, vous le savez, est un homme plein de ressources et de modestie. Blague. Je pense faire venir la plus grande attraction au monde, celui qui attire des foules bien plus importantes qu'Elvis à son apogée, et ce sans guitare. Voilà ce qu'il a écrit ce week-end sur son réseau social Truth.
Et qui ?
Et alors, il parle évidemment de lui. Bien sûr. Ouais. Parce qu'en fait, Donald Trump propose à la place des concerts de donner un meeting. Voilà, voilà, voilà.
Moi, j'aurais bien vu le déranger de Donald Trump sans la guitare, s'il fait Elvis.
Oui, on aura peut-être YMC.
Rendez-vous le 4 juillet prochain, en pleine Coupe du Monde, j'insiste, aux États-Unis. On part en Allemagne, Arthur.
Ouais, début mai, il y a les policiers Deutskirchen qui ont installé un radar dans la ville, une zone limitée.
Regardez pas comme ça, personne ne va vous corriger sur la prononciation de ce bled.
Mais parce qu'elle est excellente. Voilà. C'était une zone limitée à 30 km/h. Bon, peu de temps après, il y a un véhicule qui s'est fait flasher à 42 km/h.
Ouais,
les agents ont visionné les images pour relever la plaque. Et la surprise, bah, au premier plan, il y a une mamie, les mains au volant d'un gros déambulateur. Elle est passée dans le champ de la caméra exactement au bon moment derrière elle. Et en fait, il y a une camionnette, évidemment, dont le conducteur est le véritable auteur de l'infraction. Et il peut remercier la mamie parce qu'elle a masqué avec son engin la plaque d'immatriculation de la camionnette. La police a posté la photo sur Facebook avec ce commentaire. À première vue, on aurait dit qu'elle venait d'établir un record du monde de vitesse en déambulateur. Bon, la mamie, évidemment, n'a pas eu d'amende. Le conducteur.
Merci de le préciser.
Le conducteur non plus. Tout le monde repart gagnant, sauf la sécurité routière, bien sûr.
Ouais, même, a priori, même les forces de l'ordre, ça a l'air de les amuser un petit peu.
Oui, ils ont un peu dit.
C'est drôle, oui.
À Euskirchen.
Ouais, c'est ça qu'on dit. C'est comme ça. Euskirchen.
Euskirchen. Merci beaucoup pour ce cours d'allemand. En plus, allez, moi je vous parle d'un ado qui a réussi à faire annuler les épreuves du bac. Ça aurait pu me servir en allemand. Ça a l'air léger comme ça, mais c'est l'histoire de Younes. Il a 17 ans, il est français au Bahreïn, Younes qui a fait annuler le bac au Moyen-Orient. Vous comprenez que les élèves n'ont pas pu suivre les cours normalement depuis le début de la guerre en Iran, les alertes angoissantes, les rapatriements non moins stressants. Younes est rentré à Toulouse dans la précipitation, les cours à distance quand c'est possible. Younes a lancé une pétition qui a rassemblé des centaines de signatures dans plusieurs pays de la région. Et fort de cette collecte, il a écrit directement à Emmanuel Macron comment est-ce qu'on peut passer le bac alors qu'on a raté deux mois d'école. Quelques jours plus tard, l'info est tombée, le président était sensible à sa démarche, les épreuves du bac annulées dans les établissements français du proche Moyen-Orient, ainsi qu'au Mali, hein, où on en parle assez peu, mais la situation reste extrêmement tendue. Finalement, seul le contrôle continu est retenu pour ces jeunes Français, ce qui a permis à Younes de directement décrocher son bac avec une mention.
Bravo, bah, Younes. Bravo.
Il est 5h22 sur RMC et RMC Story. Les trois grands titres de l'actu, Élise.
Et la fête a duré jusque tard dans la nuit à Paris pour célébrer le deuxième sacre du PSG en Ligue des Champions. Juste avant la célébration au Parc des Princes, les joueurs et le staff se sont rendus à l'Élysée où Emmanuel Macron leur a rendu hommage et condamné les violences qui ont éclaté un peu partout en France. C'est pas le foot, ça. On ne veut plus voir ça, a déclaré le chef de l'État. On rappelle qu'on compte près de 800 interpellations. Dans le Gers, les recherches continuent pour tenter de retrouver la petite Liana, 11 ans, portée disparue depuis vendredi après-midi. Un homme de 41 a été placé en garde à vue.
Il est 5h22.
RMC, la solution conso.
Et tous les matins, Géraldine a des astuces pour que vous puissiez faire des économies. Ce matin, Géraldine, on va déménager.
Presque la moitié des Français qui voulaient déménager ces 12 derniers mois a dû reporter ou même renoncer carrément à son projet. En tout cas, c'est ce que révèle le dernier baromètre Ipsos pour Nextories. Et la raison principale, c'est le contexte économique. Alors, il y a des astuces, bien sûr, pour payer moins cher. Le mieux, évidemment, c'est de faire un maximum tout seul ou en tout cas avec des amis bénévoles. Mais dites-vous bien que si vous avez le permis B, vous pouvez conduire un véhicule jusqu'à 30 mètres cubes. Donc ça équivaut à vider un logement d'environ 80 mètres carrés, hein, donc ça peut tout à fait suffire. Bon plan pour la location, vous pouvez louer un utilitaire de nuit entre 18h et 8h du matin, bah oui, ça vous coûtera moins cher. Si vous avez besoin d'un petit peu plus grand, le mieux ça va être d'être flexible sur la date et de pouvoir pratiquer le groupage. Ça consiste en fait à partager le camion, donc les frais également. Il faut juste attendre que quelqu'un fasse à peu près le même trajet que vous ou alors le trajet inverse, ça évite que le camion rentre à vide et là aussi ça fait des belles économies.
Et alors Géraldine, comment choisir l'entreprise de déménagement pour éviter les arnaques?
Il y en a beaucoup. Donc déjà, ce qui va être très important, ça va être de regarder le numéro de ciré et vérifier que l'activité de l'entreprise, c'est bien le déménagement et pas autre chose. Regardez aussi sa date de création. Certaines entreprises sont créées juste pour la saison des déménagements et ferment juste après l'été. Donc ça, évidemment, c'est à éviter. Vous pouvez demander à voir l'attestation d'assurance professionnelle du déménageur. Et en tout cas, méfiez-vous des comparateurs en ligne. Ils vont vous proposer tout et n'importe quoi. Et attention, si le prix est trop bas, ça doit vous alerter. Vous risquez de le payer cher à l'arrivée.
Est-ce qu'il existe des aides pour déménager?
Oui, il y a des aides. Il y a une aide de la CAF, notamment pour les familles nombreuses qui touchent déjà l'AFL ou l'AFL. Pour les personnes en grande difficulté, il y a le Fonds de solidarité logement. Alors, c'est soit une aide sans contrepartie, soit un prêt à rembourser. Et puis, si vous êtes salarié, renseignez-vous auprès de votre entreprise parce qu'il y en a pas mal qui prennent en charge une partie du déménagement ou au moins qui vous offrent une journée de congé gratuite.
Merci Géraldine. La solution qu'on soit retrouvée en podcast sur l'application RMC.
La conso sur RMC avec Banque Populaire. Engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Allez, dans un instant, c'est le meilleur d'Arnaud Demant chez vous au 32-16. A tout de suite.
5h-7h.
5-7. Le Morning RMC.
Élise Dangean, Mathieu Béliard.
Et à 5h26, un peu de musique, Élise.
Avec Damso qui a conclu ce week-end sa tournée, en tout cas la partie française, avec pas moins de 4 shows à la Défense Arena à Paris. Dernière performance hier soir et c'était grandiose. Alors non Damso, tu ne te ramollis pas, au contraire, c'était la 4e fois que je le voyais en live et je peux vous le dire, c'était de loin son meilleur show, que dis-je, sa meilleure pièce. On avait un peu de tout, de la danse contemporaine, des jeux de lumière incroyables, des décors et des costumes soignés, et alors une grosse, grosse place laissée aux instrumentales. A réussi à casser les codes des concerts de rap pour installer une vraie atmosphère, raconter une histoire, mais pour ça, pas de duo ni de discussion avec le public, ce qui a suscité un peu d'incompréhension chez certains fans. Damso qui n'est plus le même qu'hier, on s'en réjouit et on l'a bien compris.
préciser que pour nos camarades sur RMC Story, le canal 23, ces images ont été réalisées par une équipe technique
de haute volée, de choc.
Élise Dongeray, son téléphone devant la scène. A pas passé le même week-end du tout.
Oui.
Ça a l'air bien aussi à Nanterre. 5h28 sur RMC, RMC Story, on écoute le meilleur d'Arnaud Demanche. Mais d'abord, je vous rappelle qu'on joue ce matin. On joue au mot caché, il a été prononcé à un moment, je tiens à le préciser. Si vous l'avez identifié, vous envoyez mot par texto au 732-16, on va le redire.
Et vous serez peut-être tiré au sort pour gagner un cadre photo connecté d'Agfa Photo, j'espère que je le prononce bien, qui affiche instantanément vos photos, vos vidéos et même des messages que vous envoyez depuis votre téléphone où que vous soyez dans le monde.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Jouez au mot caché sur RMC avec les cadres photo numériques connectés d'Agfa Photo qui affichent instantanément les photos et vidéos envoyées de votre téléphone d'où que vous soyez.
Allez, reviens tout à l'heure en direct dans Pauline Matin, mais on se met tout de suite dans l'ambiance. C'est le meilleur d'Arnaud Demange.
Le dictionnaire Robert lance un assistant en intelligence artificielle. Dis-moi Robert.
Oui.
On peut lui poser toutes les questions sur la langue française.
Oui, dis-moi Robert. Ça fait un peu pilier de comptoir à qui tu poses des questions quand t'es raide bourré. Tu sais, là c'est sur la langue française. Et ben, ça sera... Dis-moi Robert, est-ce que les vieilles sirènes dans l'océan... Elle finit seule avec des poissons-chats. On ne sait pas. Dis-moi, Robert, est-ce que les flamènes couchent le premier soir? Dis-moi, Robert, si on mange un pépito à minuit, est-ce que c'est un pépitard? J'ai passé énormément de temps dans les bistrots, j'en ai collecté des trucs. Non, non, mais c'est bossé. C'est bossé en temps de canicule, mais c'est bossé, quoi. Et le dictionnaire Larousse, lui aussi, va lancer un assistant en IA. Dis-moi, Larousse. Dis-moi, Larousse. C'était alambiqué et ça servait à rien. Je voulais juste un prétexte pour voir Apolline et Élise s'enjailler sur la chanson.
Arnaud, qu'on retrouve tout à l'heure en direct 7h20, 8h20 dans Apolline Matin sur RMC et RMC Story. Il est 5h30 sur RMC.
5-7, le Morning RMC.
Et c'est l'heure du journal avec Thibaut Texier. Bonjour Thibaut.
Bonjour Mathieu, bonjour Élise, bonjour à tous.
On ne veut plus voir ça.
Les mots d'Emmanuel Macron qui juge inqualifiables les débordements et les violences qui ont entaché la victoire du PSG en Ligue des Champions. Le bilan provisoire fait état d'au moins un mort et des dizaines de blessés. Les joueurs parisiens reçus à l'Elysée hier entre deux célébrations au Champ de Mars et au Parc des Princes devant des milliers de supporters venus fêter le retour de leur héros. Et puis on est toujours sans nouvelles de Leyana ce matin, jeune adolescente de 11 ans disparue depuis vendredi, une battue hier pour tenter de la retrouver n'a rien donné. Un homme est placé en garde à vue.
Les premières comparutions ce lundi après les débordements qui ont émaillé la victoire du PSG en Ligue des Champions.
La fête d'un côté, la violence de l'autre, celle de plusieurs centaines de supporters qui n'étaient pas forcément venus célébrer le sacre parisien dans la nuit de samedi à dimanche à Paris et dans plus de 70 villes du pays. 780 personnes ont été interpellées, 457 placées en garde à vue. C'est 32% de plus que l'an dernier, dit Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, qui s'est attiré les foudres des policiers pour avoir évoqué une situation sous contrôle, Julie Bro.
Insultes, tirs de mortiers d'artifice, jets de pavés, de boules de pétanque et autres projectiles. Les casseurs étaient encore plus agressifs que l'année dernière. On était dépassés, confie un policier mobilisé à Paris le soir de la finale. Des violences commises par des délinquants de plus en plus jeunes, déplore Yoann Maras, délégué national du syndicat Alliance Police.
Ces jeunes, ils sont désinhibés, ils venaient pour dégrader, casser, s'en prendre aux forces de l'ordre et se filmer, mettre ça en ligne sur les réseaux sociaux comme un trophée. Et on a l'impression que rien n'est fait derrière pour stopper cette spirale.
Alors que les premiers gardés à vue seront jugés à partir d'aujourd'hui en comparution immédiate, le syndicaliste demande des sanctions judiciaires fermes.
On le sait, l'année dernière, suite à la finale, on a eu moins de 5% de condamnations. Donc si cette fois on recommence dans le même schéma, on va pas y arriver.
Condamner les casseurs à des peines de prison, seule solution selon lui pour éviter de nouveaux débordements d'ores et déjà redoutés ces prochaines semaines lors de la Coupe du Monde de football.
Et notez qu'un homme est mort après avoir percuté un bloc de béton sur le périphérique parisien. Un autre est entre la vie et la mort, attaqué au couteau dans le 16e arrondissement de la ville. Des violences inqualifiables, dit Emmanuel Macron. C'est pas le foot, c'est pas le sport, dit le chef de l'État qui a reçu les désormais doubles champions d'Europe en titre hier soir à l'Elysée. Une fierté pour tout le pays, dit le président. Pause protocolaire pour les joueurs du club de la capitale arrivés de Budapest dans l'après-midi pour un grand moment de communion avec leurs supporters sur le Champ de Mars face à la Tour Eiffel. Célestin Bouger pour RMC était de la partie.
Debout, serrés les uns contre les autres pendant de longues heures avant la délivrance.
Merci d'accueillir
600 mètres de tapis rouge et bleu, une foule déchaînée de chaque côté et au bout une scène avec la tour Eiffel en fond. Les joueurs et la coupe aux grandes oreilles se rapprochent de nous.
Petit nage, je t'aime.
Il y a les joueurs qui arrivent là, ça fait quoi de les voir à quelques mètres?
C'est incroyable, c'est la première fois. Vas-y, je suis comme un ouf.
Matteo a vu passer sous ses yeux à quelques centimètres ses héros.
J'ai des crampes, j'ai pas bu. Je regrette pas, c'est le meilleur truc qu'on peut vivre, c'est incroyable.
C'est un des plus beaux moments de ta vie peut-être?
Pour l'instant oui.
Sur scène, un à un, les joueurs sont acclamés avec un chouchou. Mais c'est le capitaine Marquinhos qui fait le show. Des minutes de bonheur suspendu, Uriel a du mal à réaliser.
Le fait de les voir comme ça passer à la ligne et tout, c'est dingue en fait, c'est incroyable en fait.
Ceux qui y étaient en garderont un souvenir indélébile.
Moi dans ma tête c'était le feu moi, c'est une fois dans la vie. Mais...
Une fois dans une vie ou pas, tous se donnent rendez-vous dès l'année prochaine pour aller chercher le triplé.
Et les Parisiens ont poursuivi la fête au Parc des Princes devant 48 000 personnes. Des festivités qui vont se poursuivre aujourd'hui à Roland-Garros. Les joueurs du PSG vont présenter la coupe aux grandes oreilles au public de Roland-Garros.
Et pour le coup, ce sont les deux faces d'une même pièce. Vous souhaitez réagir ce matin à la fête, au sacre des Parisiens, historique, légendaire. Quel mot employez-vous d'ailleurs pour parler de cette finale de Ligue des Champions? On vous attend au 32-16. Mais vous voulez aussi parler de ce qui s'est passé dans les rues de Paris, beaucoup, de la région parisienne, mais pas seulement 70 villes du territoire émaillées de violence. Ça vous choque? Quelle solution face à cela? On vous attend ce matin au 32-16.
L'actualité ce matin, c'est aussi cette battue qui a rassemblé 400 personnes dans le Gers hier à Fleurance.
Et c'est là que Liana, 11 ans, a disparu depuis vendredi. Depuis, d'importants moyens ont été mis en place pour tenter de la retrouver. Une enquête pour enlèvement et séquestration de mineurs est ouverte à Milly Courtet et un homme de 41 ans a été placé en garde à vue samedi.
La dernière fois que Liana a été aperçue, c'était à bord de la voiture de cet homme, venu la prendre à la sortie de son collège, vendredi vers 15h. Un homme qu'elle connaissait, précise sa mère, puisque c'est le père de sa meilleure amie.
Nous, on l'a vu une fois, puisqu'on l'a emmené chez lui pour une soirée pyjama en début d'année scolaire.
Mais après cette soirée, elle a demandé à sa fille de ne plus le voir, évoquant des comportements inadaptés.
Mais bon, bah voilà, Liana, si elle a confiance en quelqu'un, elle serait capable de monter dans la voiture s'il lui aurait proposé de la ramener à la maison.
En garde à vue, le père de 41 ans se défend et déclare qu'il a déposé la collégienne à la piscine de la commune. Des informations jugées incohérentes et imprécises, selon la procureure d'Auch. La famille de Liana se dit vidée, fatiguée, assure qu'elle n'a jamais fugué.
Bien sûr que je suis inquiète. C'est horrible, horrible ce qui se passe. Je rêve que d'une chose, c'est qu'on la retrouve et voilà.
Hier, plusieurs centaines de volontaires ont participé à une battue pour retrouver la jeune fille de 11 ans, sans succès.
Le coup d'envoi de la grand-messe des investisseurs étrangers, ce lundi, le Salon Choose France, 9e édition, 200 PDG du monde entier vont se retrouver au château de Versailles, prêts à investir dans le pays, 40 milliards l'an dernier. C'était un record battu cette année grâce à SoftBank, spécialiste dans les nouvelles technologies. Le géant japonais Sonia Gobry annonce 75 milliards d'investissements.
C'est l'annonce la plus spectaculaire de ce sommet Choose France. SoftBank veut développer les infrastructures liées à l'intelligence artificielle. Près des deux tiers de cet investissement XXL seront consacrés d'ici à 2031 à la construction de data centers, ces immenses centres où sont stockées nos données numériques. Ils seront implantés dans les Hauts-de-France, près d'Amiens, de Valenciennes et de Dunkerque. Des installations très gourmandes en électricité et c'est justement là que la France marque des points. Elle en produit de manière abondante et pour le président de SoftBank, ça a été absolument décisif. Le géant japonais a arrêté son choix au moment de la visite d'Emmanuel Macron à Tokyo en avril dernier. Emmanuel Macron qui veut faire de la France un des leaders mondiaux de l'IA, un enjeu économique mais aussi politique à un an de la fin de son quinquennat.
À Roland-Garros, les espoirs tricolores reposent sur les épaules de Diane Paris, dernière française en lice, opposée aujourd'hui à la polonaise Chwaliska. Ce sera à vivre sur RMC, sur l'application 100% terre battue. Enfin, notez que le Sénégal a été battu par les États-Unis hier soir en amical 3-2. Les Sénégalais sur la route des Bleus à la Coupe du Monde. En phase de groupe, ce sera le 16 juin prochain.
Et les courses, Thibaut, c'est sur l'hippodrome de Vichy.
13h55, le 13, Indian Pacific est le favori de la Dream Team RMC, l'outsider. C'est le 3, Iris Intense, le 13 et le 3.
Merci beaucoup Thibaut Texer, c'était le journal, il est 5h38 et Vincent est en ligne avec nous depuis le Calvados. Bonjour Vincent.
Bonjour, Vincent, super content d'être à l'antenne.
Ah,
vraiment.
J'allais dire Vincent, vous êtes très remonté, mais vous êtes content de le dire sur RMC en tout cas.
Ça
vous
oui, non, mais j'adore, et puis j'adore le lundi alors.
Faites quoi dans la vie Vincent?
Je suis musicien.
Ah, vous jouez de quoi?
Guitare, chant, batterie, un peu de tout.
Les lundis sont peut-être plus sympas que quand on doit enfiler un costard cravate le lundi matin. Non, je dis ça alors que peut-être que vous avez aussi le blues du dimanche soir comme tous les professionnels, Vincent. Non, vous aimez le lundi, vous avez dit, mais vous aimez pas les débordements qu'on a vus ce week-end.
Bah non, j'aime pas ça. Et puis c'est prévisible, c'est à chaque fois. Effectivement, on ne veut.
Vincent,
on a perdu Vincent.
Non, mais alors attendez, je vois un souci technique. Est-ce qu'on peut remettre Vincent en ligne, s'il vous plaît? Oui, Vincent, vous nous entendez?
Oui.
Oui, pardon, ça a coupé. Vous disiez à chaque fois?
Bah, je dis à chaque fois, ça déborde, c'est prévisible, on ne veut plus voir ça du tout.
Merci Vincent. Merci de votre appel au 32-16.
Et surtout, regardez par exemple le comparatif avec les fêtes techno. Ben, effectivement, moi je suis de la génération techno, on a commencé dans les champs.
Le débat sur les rêves parties.
Bah ouais, voilà, imaginez que ça se passe dans les rêves parties, imaginez, on aurait tous une amende, nous.
Ouais, bah il y a 800 interpellations ce week-end quand même, hein, il y aura des comparutions immédiates. On suivra ce qu'il en est, hein, ne laissons pas croire que ces événements sont impunis, ce qui aurait pu être évité. C'est aussi la question qui se pose quand on entend le ministre de l'Intérieur, samedi soir, à 1h du matin, qui nous explique que c'était anticipé. Donc c'était anticipé, du coup, comment ça se fait que ça se produit? C'est la question qui se pose aussi ce matin. Merci Vincent de votre appel au 32-16. Le débat continue avec vous, évidemment, en direct sur RMC.
Il est 5h40 et dans 10 jours, c'est le début de la Coupe du Monde 2026. Mais le Mondial de Virginie, ça commence dès maintenant sur RMC. Bonjour Virginie.
Bonjour tout le monde. Ouais, ce serait une Coupe du Monde aussi ouverte que fermée, je vais vous expliquer.
Et puis, les 24 heures du ramassage de mégots. Défi accompli par Ludovic Franceschet. Bonjour.
Bonjour, je suis ravi d'être là, merci.
Ben nous, on est ravis que vous soyez là.
J'ai une exclue. Hein.
Avec nous. Vous avez une exclue?
Ah ouais, j'ai une exclue.
Ah, il sait pas du teasing quand... radio.
Ah ouais, mais il
attendez. L'exclue, c'est après la pub. C'est les Boomer Stars de TikTok, vous l'avez reconnu. Vous avez réalisé ce défi ce week-end dans le cadre du Mégoton 4e édition. On en parle avec vous dans quelques minutes.
5-7, le Morning RMC.
Élise Dangean, Mathieu Béliard.
Il est 5h42 sur RMC et RMC Story.
RMC,
le Mondial de Virginie.
Et la Coupe du Monde de football.
Il est bien votre jingle.
C'est ma Coupe du Monde, c'est un peu ma Coupe du Monde.
C'est sa Coupe du Monde. Et elle démarre dans 10 jours aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Et alors Virginie Fulpin, c'est le mondial le plus ouvert de l'histoire et le plus fermé à la fois.
Oui, c'est assez paradoxal. On n'a jamais vu autant d'équipes participer à une Coupe du Monde. Hein. 48, je le rappelle, en 2022, il y en avait que 32. Et je ne vous parle pas de la première Coupe du Monde en 1930 en Uruguay, où là, il y avait 13 pays participants. C'était la Coupe d'un tout petit monde hein, quand même à ce moment-là. Aujourd'hui, il y a plus de pays membres à la FIFA que d'États membres à l'ONU, hein, 211 contre 193. C'est logique parce que, par exemple, vous prenez le Royaume-Uni, c'est une seule entité aux Nations Unies. À la FIFA, on a l'Angleterre, le Pays de Galles, l'Écosse et l'Irlande du Nord. Donc, on ne peut pas vraiment s'étonner de voir la FIFA élargir sa compétition phare.
Alors, 48 équipes, ça permet de voir des équipes qu'on ne connaît pas vraiment?
Oui, je serais bien embêtée si là, vous me demandiez de vous donner le 11 titulaire du Curaçao, par exemple.
On y va. Hein,
ben voilà, je ne sais pas. La minuscule île des Caraïbes, c'est 150 000 âmes, est le plus petit pays à participer à un mondial et ça fait partie des charmes d'une Coupe du Monde, de voyager, de découvrir des cultures, même si sur le strict plan du football, on prend peu de risques en disant que le Curaçao risque bien de repartir avec 3 défaites au compteur et un goal average qui va se rapprocher des abysses face à l'Allemagne, la Côte d'Ivoire et l'Équateur. Un mondial à 48 équipes, c'est sympa, mais ça relève pas vraiment le niveau du football, autant le dire. Ce que cherche la FIFA, c'est à développer son sport partout dans le monde. Et plus vous avez de participants, plus l'intérêt augmente forcément. C'est une logique à la fois géopolitique et économique d'ouvrir les portes en grand.
Le problème, c'est que les supporters n'en profitent pas.
Ah ben ça, c'est le hic principal de cette Coupe du Monde. Suivre son équipe est un luxe cette année. La FIFA n'a pas plafonné ses prix. Donc pour les billets, c'est au moins 100 euros pour un match de poule, 1200 pour la finale. Je parle des places en haut, hein, le double de ce qui se pratiquait au Qatar. En plus... En fait, plus il y a participants, plus l'organisation coûte cher et la FIFA ne fait pas de bénévolat. Pourtant, les billets se vendent, mais pas aux mêmes catégories de population, en fait. Quand on dit que c'est une Coupe du Monde fermée, il y a aussi des raisons politiques. Les États-Unis distribuent les visas au compte-gouttes, notamment pour ceux qui suivent des pays ennemis. L'exemple plus criant, c'est l'Iran. Évidemment, l'équipe iranienne a son camp de base au Mexique, mais ses matchs aux États-Unis, donc il va falloir passer la frontière 3 fois. Ça peut coincer à tout moment. Même l'équipe sud-africaine, hier, a dû retarder son départ pour un problème de visa.
Alors, pour l'équipe de France, en revanche, c'est une Coupe du Monde ouverte.
Oui, bah alors déjà, on ne fait pas partie des pays à risque pour les Américains, ouf. Et surtout, les Bleus sont vus dans le monde entier comme les grands favoris de la compétition. Alors déjà, Didier Deschamps n'aime pas trop ça, hein. ça l'agace même prodigieusement. Mais que le sélectionneur se rassure, il y a aussi une sorte de prophétie qui annonce que l'équipe de France sera battue en finale. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Bah parce qu'il y a des parallèles troublants avec ce qui s'est passé il y a 20 ans. En 2006, Arsenal avait perdu en finale de la Ligue des Champions.
C'est plus fort que vous.
Je crois que c'était la même chose avant-hier. Metz avait fini dernier de la Ligue 1, comme cette année. L'OGC Nice était en finale de la Coupe de la Ligue, pareil, avec une défaite aussi. Évidemment, les Bleus avaient perdu au tir au but contre l'Italie en finale de la Coupe du Monde. Bon, bah ça au moins, on est sûr que ça se reproduira pas, hein, pour ceux qui auraient raté des épisodes, l'Italie n'étant pas qualifiée pour cette Coupe du Monde.
48 équipes et pas l'Italie, moi ça me brise toujours le cœur. Mais...
moi aussi.
Ludovic Franceschet qui est avec nous en studio, bah oui, mais bon, ça dépend que d'eux en fait. Hein.
Oui, c'est ça, et puis on se souvient d'il y a 20 ans et on se dit, bon bah voilà, le karma.
Une finale après l'autre, s'il vous plaît, Virginie, 5h46 sur RMC Story.
Et je vous rappelle qu'on joue ce matin au mot caché, mot qu'on a déjà prononcé, qu'on va reprononcer si vous l'identifiez. Vous envoyez mot MOT au 732-16 pour gagner votre cadre photo connecté Agfa Photo.
La saga Toy Story qui compte une nouvelle voix. Vous connaissez bien sûr les dessins animés où les jouets prennent vie quand on ne les regarde plus. Le 5e volet est attendu le 17 juin prochain avec la voix de... Bad Bunny, ouais, vous l'avez reconnu. Première fois pour lui dans un doublage d'animation. La star portoricaine qui jouera, je cite, une pizza avec lunettes de soleil.
Ça lui va hyper bien.
Dans un groupe de jouets oubliés, remplacés par le smartphone et la tech dans le cœur des enfants.
Tu es quoi, la pizza ?
Un vieux monsieur en jouet ?
Quoi ? Elle croit que t'es vieux parce que tu perds tes cheveux, Woody.
Bunny a besoin de quelqu'un né au même siècle qu'elle.
Les objets connectés vont-ils supplanter les vieux jouets oubliés? C'est l'intrigue de ce Toy Story 5 qui sort dans moins de 3 semaines. Le carton annoncé pour le studio Pixar et sa franchise Woody, Buzz l'éclair, Jessie et donc une pizza à lunettes, pizza à l'américaine, donc un fromage pas possible à identifier avec du pepperoni, pas
impossible
possible
à identifier aussi.
Ouais. Ouais. Et c'est joué par Bad Bunny.
On sait que c'est...
Oui, voilà.
Bon, ça sent pas l'Oscar tout de suite, mais voilà, un peu de cinéma. Il a déjà fait des apparitions ciné.
J'espère que la pizza va chanter, quoi.
Et il est 5h47 sur RMC, RMC Story. On lancera le débat pizza ananas une autre fois. Arthur Asquin dans mon oreillette qui essaie de lancer des sujets. Non, on n'a pas la place aujourd'hui. Pour l'heure, les 3 grands titres de l'actualité. Élise.
Et la fête qui s'est poursuivie jusque tard hier soir à Paris après la soirée au Parc des Princes qui a réuni 47 000 personnes. Point final des festivités pour le retour des joueurs du PSG avec leur deuxième Ligue des Champions. Contraste avec la soirée de samedi et les incidents partout en France. Près de 800 interpellations et la condamnation d'Emmanuel Macron. Et puis tiens, c'est ce matin que le SMIC augmente de 35 euros net par mois pour plus de 2 millions de Français.
Il est 5h48.
RMC, à votre service.
Bonjour Ludovic Franceschet.
Bonjour.
Vous êtes les boomer stars de TikTok, c'est comme ça qu'on vous présente, même si on ne vous présente plus, président de LOPP, Ludovic, Objectif Planète Propre, et parrain donc du Mégoton 2026.
Alors vous êtes lancé un sacré défi ce week-end, 24 heures de ramassage de mégots à Paris, dans la nuit et la journée du 29 au 30 mai, en clôture donc de cette semaine nationale du Mégoton. Ça va déjà physiquement ? Après ces 24 heures de ramassage?
Alors, j'ai des grosses ampoules sur mes talons, donc, mais ça va. Non, franchement, je suis fatigué. Fatigué, c'est affolant. Vraiment, je veux juste que l'État s'en rende compte. C'est très affolant. On n'a pas pu tout aspirer, bien évidemment, parce que j'étais avec un appareil, un aspirateur d'appartement, mais qui a été transformé en mégoteur. Et là, la transformation, c'est qu'il y a les datas dessus. Et ça, on peut avoir des chiffres, mais non, des vrais chiffres, parce qu'on en ramasse 4 millions par jour à Paris, mais là c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus, et on a hâte de partager nos chiffres et que des personnes viennent nous voir pour utiliser l'appareil, parce qu'il le faut.
Là, c'est vous êtes important. En mesure de dire, de donner des données chiffrées sur combien de minutes.
Ah oui, sur l'Opéra, par exemple, sur Montmartre, le Moulin Rouge, c'était magnifique, le Moulin Rouge. Il y a, bon, bref, voilà, on connaît la vie à Pigalle et les gens étaient bien ambiancés, puis ils voulaient jeter leur mégot par terre. Ah non, regardez ce que je suis en train de faire, et là, ils ont dit merci, mais c'est toi Ludovic Lesboeufs, oui, et du coup ils n'ont pas jeté leur mégot par terre, ils l'ont jeté dans les cendriers. C'est aussi ça la sensibilisation.
Donc c'est quoi le bilan chiffré de ces 24 heures de ramassage?
Alors il n'y a pas tous les chiffres, mais en tout, parce que le mégoton en fait c'est du 23 au 30 mai, ouais. Donc là mes chiffres sont mis avec tout le monde, on a plus de 2 millions. Hein,
de mais façon, ces 2 millions, c'est le chiffre de l'an dernier, donc c'est record battu.
Oui, ça va être battu.
Malheureusement, on n'aimerait pas les battre,
c'est
record.
Malheureux, mais c'est... Mais... Il y en a qui jettent de plus en plus, hein. C'est fou. Faut rappeler que l'amende est 135 €, mais c'est pas assez, hein.
Sincèrement. Elle est pas dissuasive, manifestement.
Non, c'est pas assez. Il faut mettre 500 €. Moi, je mettrais 500 € minimum, hein, franchement. Et, il faut arrêter ça. Mais vraiment, arrêter. Un mégot pollue 500 litres d'eau, on le répétera jamais assez. Ouais. Et c'est l'objet qu'on retrouve le plus dans nos eaux. Donc, stop, arrêtons. Il y a plus de 5000 produits dedans. Il y a de l'arsenic, il y a du plomb 3, il y a de l'ammoniac, il y a du pétrole. C'est une horreur, ce truc.
Ouais, pour vous, arrêtez ça. Pour durcir l'amende et puis aussi, voilà, sensibiliser, rappeler que c'est notre eau, hein, c'est notre bien le plus précieux qu'on pollue. Est-ce que vous avez quand même l'impression, après ces années, ces discours, vos vidéos sur TikTok qui sont virales, faut bien le dire, que les mentalités changent un peu?
Alors, il y a de l'impact, mais elle est minime. Je vais prendre l'exemple, là, par exemple, du match qu'il y a eu, etc., etc.
Vous bossiez ce week-end?
Eh oui, moi, j'ai bossé le lendemain, hier, c'était une horreur, Place Saint-Opportune, Châtelet, un tapis de déchets. J'ai même fait une vidéo qui va sortir tout à l'heure. Il y a monsieur le maire qui est venu nous voir pour constater les faits. Donc, là, il va falloir mettre de actionner l'action. C'est important parce que, là, les gens font n'importe quoi. À un moment donné, stop, arrêtons ça. On fait la fête. C'est génial, c'est historique. Moi, je suis hyper heureux. Je suis amoureux de Paris et tout. Mais dans ces conditions-là, arrêtons. C'est n'importe quoi. Je suis éboueur, je ramasse la merde. Ok, très bien. Mais c'est pas pour autant qu'on doit jeter par terre. Non, mais c'est vrai.
Alors, il y a les poubelles qui ont été renversées, etc.
Ouais,
été
brûlées.
Brûlées, toutes les dégradations qu'on connaît. Mais est-ce que aussi on a suffisamment de poubelles pour des événements de forte affluence comme ça dans les rues de Paris? Est-ce qu'il y a assez d'infrastructures de base en dehors des dégradations?
Il y a 30 000 poubelles à Paris. 30 000 poubelles. Donc, il n'y a aucune excuse. Et puis, même si la poubelle est à 5 minutes, mais prenez 5 minutes pour jeter votre déchet. Enfin, je ne comprends pas. On a une belle.
Regardez-le. Enfin, pardon.
Hein, Au Japon, il y a très peu de poubelles, mais les gens gardent avec eux jusqu'à.
Moi, je repars avec mes déchets chez moi. J'ai toujours fait ça. Mais on va me dire ça, on va dire, ouais, mais l'État, il faut qu'ils agissent, etc. On va encore ponctionner dans notre portefeuille pour pouvoir. Parce que ça coûte des sous de rajouter des poubelles aussi. Faut pas non plus. Faut y penser à tout ça. Donc, à un moment donné, on va faire des économies, mais soyons responsables, civilisés. Je voulais juste reparler du mégoton et puis de l'appareil que j'avais, parce que c'est hyper important d'en parler, parce que c'est innovant.
D'abord, parlez-nous de l'appareil d'un mot, c'est aspirateur modifié.
Ouais.
Moi, je vois
espèce fantôme.
Exactement. En fait. C'est innovant, c'est un jeune entrepreneur, il s'appelle Rémi Astier et il mérite d'aller loin et qu'on vienne le voir pour qu'on puisse travailler avec, parce que ça, c'est vraiment un appareil révolutionnaire et en plus...
Et vous allez aller loin avec cet appareil?
Oui, alors une petite excuse, c'est qu'il y a un New Yorkais qui nous a repéré et qui nous a invité à New York pour aller aspirer les mégots et pour présenter aussi l'appareil, ça c'est top. Le petit Frenchie qui va aller à New York réaliser son rêve américain, j'ai pas réussi quand j'étais un peu plus jeune, mais là peut-être que... Puis sensibiliser les Américains, c'est incroyable quand même.
Vous allez aussi exporter.
Il y a encore du boulot en France.
Bah oui. Ludovic Français, chez vous, vous avez aussi un talent pour sensibiliser les gens, pour leur expliquer avec le sourire des choses parfois très graves. Si vous arrivez à le faire avec les Américains, c'est pas les derniers à polluer non plus.
Exactement.
On sera très content de vous envoyer là-bas. Merci beaucoup Ludovic Français d'être
venu
tôt ce matin en direct en studio. Je tiens à le souligner, c'est aussi ça l'engagement. Merci. Ludovic, objectif planète propre, LOPP. Les Boueurs Stars de TikTok, une nouvelle vidéo à voir ce matin du coup.
Oui.
On va vous suivre. Il est 5h53.
Et tout de suite, c'est le meilleur de l'historien d'Apolline Matin, Arthur Chevalier.
5-7, le Morning RMC.
Et à tout moment, en podcast, sur rmc.fr, l'appli RMC et toutes les plateformes.
Joe Biden, qui arrive à peine à parler face à Donald Trump. C'était un moment marquant de la campagne présidentielle il y a 2 ans. Jill Biden, la femme de l'ancien président, vient pour la première fois de revenir vraiment sur ce débat calamiteux.
Au moment où je regardais ça, j'ai pensé « Oh mon Dieu, il fait un AVC ». Voilà ce que dit Jill Biden aujourd'hui sur l'attitude de son mari pendant le débat. Ce jour-là, l'Amérique a découvert l'état de santé catastrophique de Joe Biden, un état que son entourage dissimulait depuis des mois, voire des années, au monde entier.
En même temps, quand on est chef d'État, on ne peut pas montrer ses faiblesses.
Alors vous avez raison, et c'est une façon de penser très contemporaine, hein, puisque sous l'Ancien Régime, pendant très longtemps, la règle, c'est que Dieu décidait de tout. Donc si Dieu avait décidé que le roi était malade ou affaibli, eh bien, vous n'aviez pas le choix, il fallait subir. De toute façon, les rois vivaient en public, au milieu de leurs courtisans, donc c'était impossible de cacher quelques faiblesses que ce soit.
À partir de quand est-ce que nos chefs d'État ont voulu donc dissimuler leurs faiblesses?
Et ben en gros, ça commence après la Révolution française, et à partir de là, eh bien on savait que le pouvoir, eh bien on pouvait le perdre, donc forcément, il fallait avoir l'air toujours fort. Et Napoléon est notre premier chef d'État à avoir fait semblant d'aller toujours bien. Et pourtant, il a été malade toute sa vie. Hein. Il faisait des crises d'épilepsie assez régulières. Il avait un problème à la vessie qui l'empêchait d'uriner. Il avait aussi des crises gastriques en permanence, y compris sur le champ de bataille. Et c'est à cette époque qu'on instaure le fameux bulletin de santé du chef de l'État pour informer les Français. Et d'après ce bulletin, Napoléon était toujours en pleine forme, ce qui évidemment était complètement faux.
Donc pour informer les Français, façon de voilà. parler. Nos présidents auront eux aussi du mal à admettre parfois qu'ils sont malades.
Ah oui, évidemment. Et le cas le plus célèbre, c'est François Mitterrand. Pendant ses 14 ans de présidence, il avait un cancer dont personne ne parlait. Il faut attendre un an avant la fin de son mandat pour que lui-même l'évoque en public. Nous sommes en 1994. Le président Mitterrand donne une interview avec le journaliste Jean-Pierre Elkabbach. On voit un Mitterrand amaigri, hein, les joues creusées, le teint cireux. Mais pendant l'entretien, Mitterrand minimise son état. Il se tient droit, il fait comme si tout allait bien. Une comédie, évidemment. Plus tard, Jean-Pierre Elkabbach racontera les coulisses de ce moment d'anthologie. Hein. Eh bien, une heure avant l'interview, Mitterrand n'était même pas capable de marcher. Il fallait le porter d'une chaise à l'autre. Bref, vous l'avez compris, Apolline, exercer le pouvoir, c'est être fort, ou au moins faire semblant de l'être.
Avoir l'air de l'être, faire semblant de l'être. Merci, Arthur Chevalier. Passionnant ce rapport à la force ou à la faiblesse.
Il est 6h sur RMC et RMC Story. Très bon réveil à tous.
5-7, le Morning RMC.
Et c'est l'heure de retrouver Victor Pourchet pour le journal. Bonjour Victor.
Bonjour Élise, bonjour Mathieu et bonjour à tous.
Le Parc des Princes a célébré les rois d'Europe.
La fête à Paris s'est terminée en apothéose dans une enceinte du PSG pleine à craquer. Sans violence majeure cette nuit, alors qu'en recevant les joueurs à l'Élysée, Emmanuel Macron avait promis la fermeté contre les fauteurs de troubles. Vous entendrez aussi l'angoisse des Libanais au moment où Israël élargit son contrôle sur le sud du pays. Et la dernière Française à Roland-Garros sur les cours aujourd'hui, Diane Paris vise une place en quart de finale.
Le retour des héros à Paris.
C'était le périple des joueurs du PSG. Deuxième Ligue des Champions consécutive sous le bras. Hier, d'abord fendant la foule sur le Champ de Mars au pied de la Tour Eiffel. Et puis, ces images de communion toute la soirée, l'effervescence au Parc des Princes, l'équipe avec le trophée au centre du terrain. Et Marquinhos, le capitaine au micro.
Juste au nom de tous les joueurs, tout le staff, on vous remercie pour toute cette année, cette longue année. La douzième, elle est incroyable!
Une fête dans le calme hier, si ce n'est des individus qui ont tenté de forcer l'entrée du stade du Parc des Princes. Bien plus calme que la veille, soir du match. Nouveau bilan du parquet de Paris. 312 personnes sont en garde à vue, dont 87 mineurs. La plupart du temps pour des affrontements avec les forces de l'ordre ou des dégradations. Alors quand les joueurs ont fait un détour par l'Élysée dans l'après-midi, Emmanuel Macron a voulu afficher sa fermeté.
Malheureusement, on a vu, et je veux pas qu'on s'habitue à ça, et personne n'a envie qu'on s'habitue à ça. Des scènes de violence inacceptables à Paris et dans d'autres villes. Et donc je veux remercier le ministre de l'Intérieur, le préfet de police, l'ensemble des équipes qui se sont mobilisées face à ce qui est inqualifiable. C'est pas le foot ça, c'est pas le sport, c'est pas ce qu'on aime. Donc merci à nos policiers et à nos gendarmes. On sera intraitable avec ceux qui ont été attrapés. On ne veut plus voir ça. Fini. On en a ras-le-bol. Terminé.
Et les premières comparutions immédiates doivent débuter ce matin. Elles auront lieu bien au-delà de la capitale. Philippine Boulay, on l'a entendu dans la voix du président. D'autres villes ont été touchées. Le ministère de l'Intérieur en dénombre 71 au total.
comme à Montluçon, Rouen, Saint-Étienne ou encore Montpellier. Selon le ministre de l'Intérieur, dans une quinzaine de villes, à Clermont-Ferrand par exemple, les scènes de violence se sont accompagnées de pillages, principalement dans des magasins de vêtements ou d'articles de sport. À Pau, c'est la bibliothèque municipale qui a été vandalisée. Une dizaine de personnes a forcé les portes d'entrée et s'en est pris au mobilier. À Niort, 5 personnes ont été interpellées après des tirs de mortier, des dégradations et le pillage d'une boutique.
On a eu un commerce de baskets qui a été cambriolé, ce qui est plus que regrettable. Ça n'est jamais arrivé. C'est extrêmement choquant.
Le maire Jérôme Baloge s'interroge sur la présence de nombreux mineurs samedi soir.
Tous n'étaient pas à commettre des actes. Mais que font des enfants, parce que ce sont des enfants de 11 ans, 12 ans, 13 ans, seuls, non accompagnés dans les rues.
À quelques semaines de la Coupe du Monde de football, l'élu compte mettre en place avec la préfecture des actions de prévention pour responsabiliser les parents.
Des débordements qui vous font sûrement réagir, vous nous le dites ce matin au 3216 ou sur le WhatsApp de l'émission 0612 424 424. Et puis Apolline posera la question à Jordan Bardella, le président du Rassemblement National, qui sera son invité à 8h30.
À l'actualité, c'est aussi cette battue citoyenne d'hier qui n'a rien donné dans le Gers. 400 personnes ont tenté de retrouver Liana, 11 ans, est disparue à la sortie de son collège vendredi. Un homme, le père de sa meilleure amie, est en garde à vue. Liana a été aperçue dans sa voiture. Il dit l'avoir déposé à la piscine, récit jugé incohérent par les enquêteurs. Nouveau regain de tension en Iran ce matin. Les États-Unis viennent d'annoncer à l'instant avoir frappé des radars et des sites de contrôle de drones. Réponse des gardiens de la révolution qui disent, eux, avoir visé une base utilisée par l'armée américaine. Tout cela quelques heures après que Téhéran ait exigé des garanties de sécurité avant de signer un accord.
Il est 6h04 sur RMC. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir en urgence aujourd'hui.
À la demande de la France sur une escalade majeure au Liban que rien ne justifie. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron pour désigner le coup de force d'Israël. La prise de la forteresse de Beaufort. On est à 20 km au-dessus de la frontière et l'armée ne compte pas s'arrêter là. Elle a déjà ordonné l'évacuation des habitants d'une zone allant jusqu'à 20 km encore plus loin. De quoi nourrir l'angoisse des Libanais, Marion Gauthier.
Se demander jusqu'où ira l'armée israélienne et appeler ses parents plusieurs fois par jour. Ils sont à Armesh, un village près de la frontière, Fares à Beyrouth, dans l'angoisse.
La situation, elle va de mal en pire. Tous les villages aux alentours d'Armesh, ils sont mis à terre. Pas de maison, pas de route, comme s'il est un désert. Et c'est la première fois que je sens qu'on n'aura pas l'occasion de revenir au sud du Liban. C'est difficile.
De plus en plus difficile d'imaginer la reconstruction, explique Pascal.
Je pense qu'avant, il y avait beaucoup d'espoir, que bon, c'était 3-4 kilomètres, qu'il y aurait toujours des éléments à négocier. Mais en fait, non. On est malheureusement parti pour quelque chose qui va être beaucoup plus long.
Crainte d'une nouvelle occupation israélienne.
Au-delà de terre, on est en train de perdre une partie de nous-mêmes. Et puis le Liban est tout petit. C'est pas un autre pays. Le sud, c'est le Liban. Et les familles sont toutes connectées.
Certains confient ne plus avoir la force de parler. Trop de peine, de colère. Le sud est fini, écrit une habitante de Nabatier. On nous a détruit nos souvenirs et nos familles.
Et toujours près de cette région du Liban, la ville de Tyr a subi hier ses plus lourds bombardements depuis le début de la guerre. Des immeubles entiers sont tombés, des secouristes ont dû évacuer. Les nouveautés du 1er juin et surtout une, c'est aujourd'hui que le SMIC augmente de 2,4% pour atteindre 1477 euros net. À part ça, le gaz baisse légèrement, près de 5% après une flambée le mois dernier. Légère hausse aussi du prix de certains paquets de cigarettes. C'est devenu une sorte de tradition des investisseurs du monde entier au château de Versailles. Ouverture aujourd'hui du sommet Choose France. L'Elysée prévoit des annonces historiques parmi celles qui ont été dévoilées. C'est 75 milliards d'euros investis par le géant japonais SoftBank, mais aussi, hier, c'est 600 millions du sidérurgiste Marcegaglia pour un site à Fos-sur-Mer.
Il est 6h07 sur RMC et désormais tous nos espoirs reposent sur elle à Roland-Garros, Diane Paris en 8e de finale.
Rendez-vous est pris, vous branchez RMC ou la radio digitale 100% terre battue en début d'après-midi. Son adversaire, ce sera une joueuse polonaise 114e mondiale, mais pour la française, c'est une première à ce stade de la compétition, Léna Marjac.
Et quoi de mieux que d'être pour la première fois en deuxième semaine d'un grand chelem à la maison. Roland Garros, c'est comme chez elle ou presque. Diane Paris a grandi à quelques pas du stade. Et ce huitième de finale aujourd'hui est largement abordable face à Maja Chwalinska, une Polonaise 114e mondiale.
Une belle opportunité de pouvoir jouer une fille comme ça en huitième de finale de grand chelem, capable de sortir un très gros niveau de jeu aussi. On a envie et on se voit aller plus loin.
Plus loin, sa coach aussi y croit et l'espère. Julie Coin s'occupe de Paris depuis l'hiver dernier.
Faudrait qu'elle cède comme elle a très bien fait. Du public, elle joue sur ça et la confiance qu'elle a accumulée ces derniers temps.
Au-delà de sa confiance et de son calme, Diane Paris s'appuie sur son revers à une main qui fait des dégâts sur terre. Pour Florence Serra, consultant RMC Sport, elle s'avance clairement en favorite sur ce match.
Là, on l'attend. On attend à ce qu'elle gagne, continue juste à faire ce qu'elle fait. Comme Loïse Boisson l'année dernière, on a envie qu'elle y aille aussi en quart, en demi, et pourquoi pas plus.
Alors pourquoi ne pas marcher dans les pas de Loïse Boisson, demi-finaliste surprise l'an passé? Diane Paris l'a confié. Si Loïse l'a fait, alors pourquoi pas elle aussi?
Et le grand match, ce sera ce soir, ce sera chez les femmes. D'ailleurs, la numéro 1 mondiale Sabalenka contre la japonaise Naomi Osaka. Hier, surprise, la 4 fois titrée à Roland, Iga Świątek a été sortie chez les hommes dans cette hécatombe de tête de série. Ça passe pour Alexander Zverev.
Merci beaucoup Victor Pourchet, c'était le journal avec, je crois que la Ligue des Champions qui va passer aujourd'hui à Roland-Garros. Notamment, ça devrait être un peu plus calme que ce qu'on a vu dans les rues de Paris, hein, du côté de la porte d'Auteuil, la ribouldingue, oui, s'amuser, faire la fête, klaxonner, de là à casser, à blesser parfois des forces de l'ordre, beaucoup moins. En tout cas, c'est ce que pense Alicia, je crois, qui nous appelle du Pas-de-Calais ce matin. Bonjour Alicia.
Bonjour Alicia.
Bonjour équipe du morning.
Alicia, vous êtes lensoise et vous dites que vous savez faire la fête sans dégrader.
C'est ça, je comprends pas du tout comment ça peut être deux salles, deux ambiances. On a tous la même passion. Nous, on a fait la fête. Les bars n'ont pas fermé la nuit. Et je me suis dit, attention, ça va être dangereux avec l'alcool. Et il ne s'est rien passé. On pouvait y aller avec des enfants. Pourtant, on y a été avec la peur à force de voir des images à la télé de comment ça se passe pour le PSG. Et en fait, ça s'est super bien passé à Paris. Et là, je ne comprends pas du tout comment il peut y avoir des jeunes avec des maillots du PSG qui veulent juste taper du policier.
Ouais, vous dites que ça s'est bien passé à Lens. Mais Alicia, vous avez souligner un truc quand même, hein, parce que la réalité c'est que évidemment qu'une écrasante majorité des gens étaient là pour faire la fête. Certains vont trop loin, font des choses qu'il ne faut pas faire. Je pense à des gens qu'on voit sur des voitures. Moi j'ai vu des gamins assis sur le bord des fenêtres. C'est parfaitement irresponsable. Mais on n'est pas encore dans une logique de casse. Je me souviens l'an dernier, pardonnez-moi, de partir du Parc des Princes et en partant de voir quatre gars qui étaient en train de saccager le coffre d'une voiture. Donc c'est pas des supporters ça, Alicia. Vous avez raison. Les gens qui veulent faire la fête, bar ouvert ou pas, fête ou pas. Ça se passe bien quand c'est juste pour faire la fête.
C'est ça, mais quand je vois vos images, on voit, pas celle-là actuellement, mais il y avait un petit sur une moto sans casque avec un maillot du PSG, donc c'est un supporter, et il avait quoi? Il tirait du mortier sur les,
ben
sur
oui.
les policiers.
En direction des policiers, qui plus est. On a vu ça beaucoup.
Oui, et pourtant, il y avait un maillot du PSG, donc je ne comprends pas comment on peut vouloir faire la fête avec de la violence. Nous, ça s'est super bien passé. On a eu peur par rapport à ce qu'on est habitué à voir, mais j'ai vu des rues noires de monde. J'ai vu beaucoup d'alcool, mais il n'y a rien eu derrière. Il n'y a rien eu et les petits, ils étaient en sécurité. Les petits faisaient peut-être plus la fête que nous. Et ça s'est super bien passé. Alors que je ne comprends pas comment, à Paris, ça peut mal se passer. Alors qu'à la base, on a gagné, on est content.
Oui, c'est la fête. Merci Alicia. Merci beaucoup de votre appel ce matin au 32-16. Remarque judicieuse. On continue de parler des conditions de cette fête, justement, avec vous au 32-16 et sur le WhatsApp RMC.
Il est 6h11 et on continue aussi de parler football avec le choix de la rédaction en direct de Miami aux États-Unis. Bonjour Martin Bourdin.
Bonjour à tous.
Martin, vous êtes notre envoyé spécial aux États-Unis. Alors, comment l'Amérique de Donald Trump s'apprête à accueillir cet événement mondial? La Coupe du Monde 2026, elle débute dans 10 jours, mais ça commence dès maintenant sur RMC. Et alors, Martin, on a envie de vous poser la question. Est-ce que les Américains ont la tête au mondial?
Alors, ils l'attendent, oui, de ce mondial, mais ce n'est pas vraiment ça qui rythme leur quotidien en ce moment.
À tout de suite.
5h-7h.
5-7, le Morning RMC.
Élise Dangean, Mathieu Béliard.
Il est 6h15 sur RMC et RMC Story.
RMC, le choix de la rédaction.
La Coupe du Monde de foot, ça commence dans 10 jours et toute cette semaine dans le choix de la rédaction en direct. On va prendre la température aux États-Unis, comprendre comment l'Amérique de Donald Trump se prépare à accueillir le monde.
Bonjour Martin Bourdin.
Bonjour Mathieu, bonjour Élise, bonjour à tous.
Vous êtes notre envoyé spécial aux États-Unis. Là, au moment où on se parle, chers amis, Martin Bourdin est sous les palmiers de Miami.
presque chanceux.
20 semaines dernière. Martin, tiens, racontez-nous, est-ce que ça sent la Coupe du Monde déjà ou pas?
Bah, pour vous donner une idée, plusieurs fois depuis que je suis arrivé jeudi soir, j'ai appris à des habitants de Miami que 7 matchs de la Coupe du Monde allaient avoir lieu dans leur ville. Donc non, ça sent pas vraiment la Coupe du Monde. C'est la preuve en tout cas que pour le moment, ce mondial il est assez discret, il est même invisible. À l'aéroport, quand on arrive à Miami, pas le moindre produit dérivé là-bas. C'est pas beaucoup mieux en ville, parce que hormis autour du site de la future fan zone où tout est en train d'être installé, ailleurs, ce mondial n'est présent ni dans les rues, ni dans les conversations.
Mais alors Martin, ils parlent de quoi les Américains ?
Eh bien, ils parlent du même sujet que les Français. Le sujet de préoccupation numéro un, c'est de finir les fins de mois. Les Américains aussi, comme en France, subissent les conséquences de la guerre au Moyen-Orient. J'ai pu me rendre compte sans trop de difficultés en posant mon micro devant une station-service.
Avant, un plein d'essence, c'était $40. Là, regardez, on est déjà au-delà. C'est autour de $60-65 maintenant.
Ici, les clients paient autour de $4.50 le gallon d'essence. C'est à peu près l'équivalent de 3 litres et demi. Alors, c'est moins cher qu'en France, mais c'est 50% de plus qu'au début du mois de mars.
Je n'ai jamais vu des prix aussi élevés de toute ma vie. Ce n'est vraiment pas un plaisir. J'aimerais acheter des vêtements, mais je ne peux pas. Alors j'essaie de trouver des produits moins chers, des magasins moins chers pour économiser de l'argent. Je réfléchis aussi à prendre un logement plus petit. Je n'y connais rien au foot, mais on ne devrait pas célébrer quoi que ce soit en ce moment.
L'essence qui coûte plus cher, la nourriture aussi, les œufs, le lait, la viande notamment. On mange moins, me disait un peu honteux d'ailleurs, un père de famille à la sortie d'un supermarché.
Oui, évidemment, on comprend, Martin, qu'on n'a pas trop envie de faire la fête là, à 10 jours du Mondial.
Mais ça dépend quand même à qui on parle, Mathieu, parce qu'il y en a quand même qui sont à fond. Les Latinos, les nombreux habitants de Miami, originaires d'Amérique du Sud, pour eux, le foot, c'est presque une religion. Et en fait, ce qu'on espère surtout à Miami, c'est que cette Coupe du Monde permette de s'aérer un peu l'esprit. C'est Brian, un père de famille, qui résume le mieux. Everybody's looking for
an out. Tout le monde cherche un moyen de se changer les idées et ça sera la Coupe du Monde. Ça va nous permettre de faire quelque chose qu'on a vraiment envie de faire, de profiter de la vie, peu importe ce qu'il se passe. La situation actuelle nous affecte tous. Donc la Coupe du Monde, c'est une bénédiction pour nous changer les idées et profiter.
Et il y en a besoin. Récemment, un sondage expliquait que plus de la moitié des Américains estimaient être dans une situation économique pire qu'après la crise de 2008, par exemple.
Merci Martin Bourdin, envoyé spécial d'RMC à Miami aux États-Unis. On va aussi vous retrouver cette semaine à Houston, à San Antonio. Et je vous rappelle qu'RMC, c'est la radio officielle de la Coupe du Monde FIFA 2026 avec 100% des 104 matchs à commenter en direct. Pour vivre le mondial à l'antenne, ça se passe avec la Dream Team RMC et notamment 4 champions du monde, Samuel Umtiti, Emmanuel Petit, Christophe Dugarry et Lionel Charbonnier. Bref, ça va envoyer sur RMC. Hein.
J'ajoute qu'il y a des matchs décalage horaire avec l'Amérique de Martin Bourdin. Merci Martin, il y a des matchs qui se termineront pendant le morning.
Pendant le morning, ouais.
Ayez le réflexe, vous vous branchez sur RMC dès que vous vous réveillez, vous ne manquerez rien. Il est 6h18 et Julien est en ligne avec nous dans l'Hérault. Bonjour Julien.
Bonjour tout le monde.
Julien, vous êtes supporter de l'OM, mais vous étiez à Roland hier soir. Porte d'Auteuil.
Donc j'étais à Roland-Garros samedi soir. Mm-hmm. Et on est sorti vers 23h30. On avait une demi-heure de marche pour rejoindre l'hôtel. Et je dois vous avouer qu'on n'était pas très rassurés.
Vous avez vu des choses.
Pardonnez-moi, il faut juste le dire pour les non-parisiens. La porte d'Auteuil, Roland-Garros, c'est vraiment à quelques centaines, toutes petites centaines de mètres du Parc des Princes.
Voilà, c'est ça. On est passé sur la grande avenue là, qui rejoint le Parc des Princes. On devait rejoindre l'hôtel vers la Tour Eiffel. Il y avait un gros cortège avec des feux d'artifice. Même au 14 juillet, on ne voit même pas ça. Mmh. Pardon. Et c'est vrai que moi, j'ai vécu France 98, j'avais 11 ans. J'ai fêté ça avec mon oncle dans la ville la plus proche. On sautait partout, on faisait la fête, on se faisait des batailles d'eau avec les fontaines. Il y avait des voitures, on sautait autour, on chantait, mais à aucun moment on mettait des coups de pied dans les voitures, on cassait les vitres. Enfin, je veux dire, ce qu'on a vu, c'est aberrant, quoi.
C'est aberrant, mais personne ne le comprend. Hein. Je crois qu'on aime le foot ou pas, personne n'arrive à comprendre. Ça gagne, ça casse. Qu'est-ce qui serait passé si Paris avait perdu? La même chose, à mon avis, strictement la même chose. Julien, merci de votre appel.
Non, mais merci à vous.
Mais bon retour, du coup. Bon retour dans l'Hérault.
Ah ben, c'est déjà fait, je suis déjà au travail, là.
Déjà.
Bon courage pour la journée, alors.
Merci, bonne journée à vous.
À bientôt,
merci
Julien.
Merci beaucoup, Julien. Il est 6h20.
Un peu de musique avec Damso ce matin qui a conclu sa tournée ce week-end, en tout cas la partie française de sa tournée, avec pas moins de 4 shows à la Défense Arena à Paris. Dernière performance hier soir et c'était grandiose. Moi, Damso, tu ne te ramollis pas. Au contraire, c'était la quatrième fois que je le voyais en live et je peux vous le dire, c'était de loin son meilleur show, que dis-je, sa meilleure pièce. Alors vous voyez, hein, l'atmosphère qui a été créée avec de la danse contemporaine, des jeux de lumière incroyables, des décors et des costumes soignés et une très grosse place laissée aux instrumentales. Le rappeur belge réussit à casser les codes des concerts de rap pour installer une vraie atmosphère et raconter une histoire. Mais pour ça, pas de duo ni de conversation avec le public, ce qui a suscité un peu d'incompréhension chez ses fans. Vous l'aurez compris, Damso n'est plus le même qu'hier. Ça, on l'a bien compris. Et moi, j'ai aimé personnellement.
Ouais, voilà. Et on aime. Et
ce sont mes images sur
images
RMC Story.
En direct sur RMC Story, exactement. Le week-end d'Élise Dangean. Ouais, je peux vous montrer des vidéos du périph' parisien, mais elles sont dans les infos
si
depuis deux jours. On les voit déjà à la télé depuis deux jours. 6h21 sur RMC et RMC Story. Très bon réveil à tous, les trois grands titres de l'actualité avec Élise.
Et alors, justement, on ne veut plus voir ça. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron qui juge inqualifiables les débordements et les violences qui ont entaché la victoire du PSG en Ligue des Champions. Le bilan provisoire fait état d'au moins un mort et des dizaines de blessés. Les joueurs parisiens qui étaient donc reçus à l'Élysée hier entre deux célébrations au Champ de Mars et au Parc des Princes. Et puis on est toujours sans nouvelles ce matin de la petite Léana, jeune adolescente de 11 ans, disparue depuis vendredi. Une battue hier n'a rien donné, c'est dans le Gers. Un homme de 41 ans a été placé en garde à vue.
Il est 6h22. Et bonjour Aurèle Guedj.
Bonjour.
Bonjour Aurèle.
Notre médecin du matin, c'est l'heure de la consultation gratuite.
Et oui, ce matin, on va se demander pourquoi eh bien, on a des pellicules. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, cette phrase de « Est-ce qu'il neige ?» Non, j'ai juste des pellicules. Eh bien, vous saurez tout des pellicules dans un instant.
Géraldine de Borug, la météo, c'est moi. Et non, il ne va pas neiger. 6h22, tout de suite sur RMC.
Jusqu'à 7h.
5-7, le Morning RMC.
Élise Dangean, Mathieu Béliard.
Et donc on a un Français sur deux qui souffrira de pellicules au cours de sa vie. Aurèle Guedj, ces petits points blancs disgracieux qui tombent sur les épaules et qui peuvent être une véritable source de gêne au quotidien. Mais alors au fond, docteur, qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que c'est grave?
Non, c'est pas grave. Et qu'est-ce que c'est? C'est juste de la peau. C'est des morceaux de peau qui se sont reproduits un petit peu trop vite et que vous allez voir parce qu'ils vont être un petit peu agglutinés. Votre peau se renouvelle constamment et vous pourrez me dire, mais je comprends pas, j'ai pas de pellicule sur les bras, j'ai pas de pellicule sur le torse. Non, puisque là, en fait, votre peau va se reproduire normalement. C'est juste que le mécanisme des pellicules, c'est une peau qui va se reproduire trop vite. Donc, vous allez pas avoir le temps d'avoir plein de petites particules de peau. Elles vont s'agglutiner et ça va faire des gros morceaux de peau. Et en fait, donc, tout simplement, ce blanc, c'est des morceaux de peau.
Mais pourquoi est-ce que certaines personnes ont-elles des pellicules, d'autres non, certains plus que d'autres?
À cause d'un responsable, un coupable. Une bactérie, enfin c'est un champignon, pardon, son nom, Malassezia. Malassezia, ce champignon va avoir une particularité. On l'a tous hein, autour de cette table, je vous le dis. L'histoire de ce champignon, c'est juste qu'il va festoyer grâce à vos cheveux, puisque vos cheveux sont lubrifiés grâce au sébum. Quand il va se nourrir, il va induire de l'inflammation. L'inflammation, ça va encore plus refermer les pores, donc il y aura encore plus de sébum, donc il va encore plus festoyer. Et donc vous allez directement eh bien, avoir des pellicules, puisqu'il va, en induisant une inflammation, il va aussi faire que la peau va se reproduire trop vite et va y avoir des pellicules.
Mais si on a tous le champignon, pourquoi il y en a certains qui ont plus de pellicules que d'autres?
Eh bien, en fait, vous allez avoir des personnes qui vont produire plus de sébum. Par exemple, les hommes, en moyenne, produisent plus de sébum, donc les hommes ont plus souvent des pellicules. Vous allez avoir des personnes qui vont avoir des défenses immunitaires qui vont être un peu trop réactives ou alors désorientées, exemple quand vous avez de l'immunodépression. Ou par exemple, quand vous avez de la fatigue ou du stress, ça peut aussi faire que vous allez surréagir face à ce champignon-là.
Et comment on traite?
Eh ben, l'idée, ça va être de réguler l'activité du champignon, pas de le détruire, puisqu'il faut bien comprendre que on l'a tous et que détruire la flore intestinale, c'est compliqué. Donc, on va essayer d'abord de faire que il va moins s'activer. Donc, on va avoir les shampoings antipelliculaires. C'est pas des antifongiques. C'est-à-dire, l'idée, c'est pas de détruire le champignon, c'est vraiment de réguler son activité. L'autre chose, c'est de ralentir la reproduction de la peau. Et puis, quand vraiment, vraiment, c'est gênant, on passe à quoi? On passe à des molécules qui tuent. Les antifongiques, qui vont tuer. Alors oui, vous avez raison. Dans certains cas, on peut donner des corticoïdes parce qu'on se dit on va tenter les deux. On va se dire on tue le champignon avec des antifongiques et puis on évite qu'il y ait une réaction inflammatoire derrière. Mais compte tenu du fait que les pellicules c'est juste disgracieux, on évite le plus souvent. Donc on reste sur les shampoings antipelliculaires et le plus souvent on a une bonne tolérance et une bonne réaction.
Merci beaucoup Aurèle Guedj et on appréciera. l'intégrale de Grey's Anatomy absorbée, digérée par Élise Dangean, parce que là, sur le, j'étais pas prêt sur les corticoïdes. Bon,
pourtant, t'as beaucoup de cheveux. Hein,
il est 6h28 sur RMC, RMC Story. Gérard est avec nous dans la Manche.
Salut Gérard.
Salut.
Comment ça va ce matin?
Ça va, impeccable.
Bon, est-ce que vous avez identifié le mot caché ce matin, Gérard?
Ben ouais, je dirais que c'est même ribouledingue en fait, mais...
Exactement. Voilà. Bravo Gérard.
Une fête, une partie de plaisir, quand ça se passe bien, une fête débridée, mais on n'est pas obligé de tout casser, ça c'est le débat
du jour. Exactement ce que j'allais dire, c'est la modération, c'est important.
Eh oui, Gérard à Saint-Lô dans la Manche. Merci beaucoup Gérard, vous repartez avec le cadre photo connecté.
Agfa Photo.
Une bonne journée.
Merci Gérard, vous allez pouvoir afficher instantanément toutes vos photos, vidéos et même vos messages sur ce cadre connecté. Il est 6h29.
Il est 6h30 sur RMC.
5-7, le Morning RMC.
L'heure du journal avec Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour à tous les deux, bonjour à tous.
Et à la une, la fermeté promise par Emmanuel Macron.
Ras-le-bol de la violence, voilà ce qu'a dit le président à propos des 780 personnes qui avaient été interpellées samedi soir en marche du sacre du PSG. Alors la fête, la vraie, s'est prolongée hier soir au Champ de Mars et au Parc des Princes dans une bonne ambiance, on va vous la raconter. Et je vous signale aussi que c'est ce matin que le SMIC augmente de 35 euros net pour plus de 2 millions de Français.
Emmanuel Macron a donc promis d'être intraitable avec les casseurs de samedi soir.
On ne veut plus voir ça, ras-le-bol, fini, terminé. Voilà ce qu'a dit le président en faisant cette promesse donc de réponse ferme à l'égard des 780 personnes interpellées dans la nuit de samedi à dimanche. 32% de plus que l'année dernière lors du premier sacre du PSG. La moitié pour des violences à l'égard des 22 000 policiers et gendarmes qui étaient déployés partout en France. 57 blessés dans leur rang. Ils racontent leur soirée écoutée à Julie Brault pour RMC.
Insultes, tirs de mortiers d'artifice, jets de pavés, de boules de pétanque et autres projectiles. Les casseurs étaient encore plus agressifs que l'année dernière. On était dépassés, confie un policier mobilisé à Paris le soir de la finale. Des violences commises par des délinquants de plus en plus jeunes, déplore Yoann Maras, délégué national du syndicat Alliance Police.
Ces jeunes, ils sont désinhibés. Ils venaient pour dégrader, casser, s'en prendre aux forces de l'ordre et se filmer, mettre ça en ligne sur les réseaux sociaux comme un trophée. Et on a l'impression que rien n'est fait derrière pour stopper cette spirale.
Alors que les premiers gardés à vue seront jugés à partir d'aujourd'hui en comparution immédiate, le syndicaliste demande des sanctions judiciaires fermes.
On le sait, l'année dernière, suite à la finale, on a eu moins de 5% de condamnations. Donc si cette fois on recommence dans le même schéma, on va pas y arriver.
Condamner les casseurs à des peines de prison, seule solution selon lui pour éviter de nouveaux débordements d'ores et déjà redoutés ces prochaines semaines lors de la Coupe du Monde de football.
Des violences recensées dans 71 villes, y compris des endroits qui n'ont rien à voir avec le PSG comme Niort, Agen, Pau, Montluçon. Des violences, une soirée qui a été endeuillée par un mort à Paris et 3 blessés graves, dont une femme attablée en terrasse, percutée par une voiture avec 8 personnes à bord qui fuyaient les policiers après les avoir visés au mortier d'artifice. Ouais,
viser des policiers au mortier d'artifice à 8 dans une voiture, j'ai pas le modèle du véhicule, hein, mais il y a quelque chose de pas réglementaire, il me semble, dans cette histoire qui blesse une femme qui n'a rien demandé à personne si ce n'est faire la fête. Est-ce qu'on est encore capable de faire la fête sans tout casser, sans tout brûler? Vous répondez à cette question au 32-16. Ce matin, on y revient longuement.
Heureusement, la soirée d'hier a été bien plus calme que celle de samedi avec des images de liesse dans la capitale.
Oui, 47 000 personnes dans la soirée au Parc des Princes pour le retour des joueurs du PSG qui auparavant avaient présenté le trophée à l'Élysée et devant 100 000 personnes qui avaient attendu tout l'après-midi au Champ de Mars au pied de la Tour Eiffel. Images dont rêvaient, vous le savez, les dirigeants parisiens.
Ça fait trop du bien, franchement, c'est un moment intense, on est fiers.
C'est extraordinaire, moi j'ai même plus de voix carrément, je peux même plus parler. Paris,
Paris, Paris, Paris, Paris. Mais c'est venu. Et cette année, c'est encore mieux, parce que c'est encore plus proche, c'est encore plus exceptionnel.
Donc c'est incroyable, je supporte Paris depuis tout petit, franchement c'est incroyable, je suis trop content. Et voir les joueurs que j'aime le plus à côté de moi, bah, c'est le meilleur truc.
Champion, champion, champion.
C'est incroyable, franchement ça fait longtemps qu'on le supporte, et c'est un peu mérité. On l'a pas enroulé.
Et on revient l'année prochaine pour la troisième. C'est ce qu'a promis Ousmane Dembélé, qui rejoindra les Bleus demain à Clairefontaine pour préparer la Coupe du Monde qui commence dans 10 jours tout pile hein, ce matin.
Il est 6h34 sur RMC et 400 personnes participaient hier à une battue dans le Gers.
Pour tenter de retrouver la jeune Liana, adolescente de 11 ans, portée disparue depuis vendredi dernier à Fleurance. Plus personne ne l'a vue en fait depuis qu'elle est montée à la sortie du collège dans la voiture d'un homme de 41 ans, selon le récit d'un témoin, homme qui a depuis été interpellé et placé en garde à vue. Alors Jean-Wilfried Forquès pour RMC dans le Gers, ce sont les habitants, les bénévoles qui ont participé à cette battue.
Pendant de longues heures, jusqu'à la tombée de la nuit, des volontaires ont ratissé un immense périmètre établi par les gendarmes pour tenter de retrouver la fillette. À l'image d'Afoncia et Montserrat, elles ne connaissent pas Liana, mais ces deux habitantes tenaient absolument à participer aux recherches.
Je suis là comme si j'étais parrain, ami, pour trouver la petite qui a disparu.
Pour aider, pour retrouver des indices, pour retrouver... La petite Liana.
Ludovic était présent également, il connaît bien la collégienne.
C'est une petite fille de mon village et tu prends le bus avec mon fils tous les matins et tous les soirs pour rentrer en fait, voilà. Donc ça nous touche personnellement parce que ça aurait pu être un de nos enfants.
Depuis l'annonce de sa disparition, c'est toute la commune qui est sous le choc. Alors le maire de Fleurance, Grégory Bobato, n'a pas eu de mal à trouver des volontaires pour cette battue.
La mobilisation des Florentins a été extrêmement importante. Plus de 500 Florentins en moins d'une heure entre le moment où on a fait ce communiqué de presse et le moment du début de cette recherche citoyenne.
Des affichettes à l'effigie de Liana ont été accrochées dans la commune, jusque devant son collège, où les cours reprennent ce matin. Sans la jeune fille.
C'est ce matin que le SMIC, je vous le disais, augmente pour un peu plus de 2 millions de Français. Effet mécanique de l'inflation, 35 euros net par mois. Et alors ça suffit, ces 35 euros, à faire basculer les salaires minimum de 126 branches en dessous du SMIC, d'après les chiffres du gouvernement, qui demande, sous peine de sanction, à ces secteurs, eh bien, d'augmenter les salaires pour tous ces Français qui sont payés désormais moins que le SMIC. Des exemples, écoutez avec Antonin Audion.
C'est le cas d'Isabelle, 59 ans, employée dans un abattoir. Elle venait de dépasser le niveau du SMIC au bout de 25 années dans cette même entreprise. Mais à partir d'aujourd'hui...
Le SMIC, il va être 4 euros plus cher que moi. Je trouve ça inadmissible.
Même situation pour Claire, 10 ans d'ancienneté dans ce même abattoir, où elle a occupé de nombreux postes. Son salaire a lui aussi été rattrapé par cette revalorisation du SMIC, si bien qu'un débutant sans aucune expérience touchera le même salaire qu'elle.
C'est pas normal du tout. On a de l'expérience plus de l'ancienneté. Ce serait pas normal qu'il gagne plus cher que moi.
Dans ces entreprises, en effet, les premiers échelons de la grille salariale sont encore sous le SMIC, c'est illégal et cela concerne 70% des branches professionnelles selon le ministère du Travail. Une stratégie pour tirer les salaires vers le bas selon Thomas Vacheron, secrétaire confédéral de la CGT.
Dans les grilles, quand les niveaux sont complètement tassés et complètement en dessous du SMIC, ça tire mécaniquement tous les salaires vers le bas car les plus bas niveaux ils sont en dessous du SMIC et donc du coup ça tire tous les niveaux et tous les salaires vers le bas.
Les entreprises ont 45 jours pour lancer des négociations avec les partenaires sociaux et se mettre en conformité. Sans accord d'ici à la fin de l'année, des sanctions pourraient tomber, menace déjà le gouvernement.
C'est la deuxième semaine à Roland-Garros et il reste une Française, Diane Paris, qui jouera son huitième de finale aujourd'hui contre une adversaire polonaise 114e mondiale et largement à sa portée. On vit ça évidemment sur RMC. Et puis le sprint final en rugby, le Racing est allé gagner à Clermont 41-13 hier soir lors de l'avant-dernière journée top 14. Gros coup pour les Racingmen qui reviennent dans les six premiers. Un peu plus tôt, Bordeaux, double champion d'Europe également, qui avait perdu 27-22 à Toulon.
Le Quintet Quentin, c'est à Vichy aujourd'hui.
À 13h50, les pronostics de la Dream Team des courses RMC, le 13, le 3, le 13 en favori Indian Pacific, le 3 en outsider, Iris Intense.
Merci beaucoup Quentin Vinet, c'était le journal de 6h30 sur RMC et RMC Story. C'est Yannick qui est en ligne avec nous dans les Pyrénées-Orientales à présent au 32-16. Bonjour Yannick.
Bonjour Yannick.
Soyez le bienvenu sur RMC.
Alors Yannick, vous, il y a une image plus qu'une autre qui vous a fait réagir ce week-end en marge des célébrations du deuxième sacre du PSG en Ligue des Champions.
Oui, oui, c'est l'image de Monsieur Olive, là, le député de la République qui... Moi, c'est ce qui m'a choqué le plus parce que le reste, malheureusement, on est habitué.
Alors, l'élu de Poissy, région parisienne, très attaché au PSG, qu'on a vu sur une voiture, hein, c'est ça ?
Oui.
Pour tout vous dire, j'ai vu que sa vidéo d'excuses.
Ouais, ben moi, au début, quand j'ai vu cette vidéo, au début, j'y croyais pas. Je me suis dit, c'est un fake, c'est pas possible. Et après, justement, j'ai vu cette vidéo d'excuse qui a confirmé que c'était bien lui. Mais, enfin, il peut fêter. Je dis pas qu'il fête pas la victoire du PSG. Il y a pas de souci. Je suis sûr qu'il y a plein d'élus de la République qui ont fêté cette victoire. Il y a pas de souci. Mais, il se doit de montrer l'exemple. Et les jeunes qui avaient à côté dans la vidéo, les jeunes qui avaient à côté, ils se sont dit quoi? Ils se sont dit, mais attendez, nous, on nous réprimande parce qu'on fait un peu trop la fête, des trucs comme ça. Bon, je parle pas des cassettes, je parle de... Et un monsieur qui doit représenter l'ordre, se permet de faire ça. Enfin, je sais pas, il y a quand même un décalage...
Alors, ce qu'il a expliqué, Yannick, c'est que le conducteur du véhicule sur lequel il est monté était un ami... Voilà, il n'y a pas eu de dégradation de la voiture, je crois.
Ouais, mais bon, enfin, moi, c'est.
Mais lui-même le dit. Alors, il a une formulation où il explique que
la passion a pris
sur la raison. Bon, en tout cas, Yannick, ça vous a choqué qu'un élu de la République se prête à ce jeu-là dans un week-end où on pose la question de notre manière de célébrer, et cette question, on la pose pour tous. Merci, Yannick. Non, vous avez raison. Cette vidéo, on l'a vue, elle vous a fait réagir. J'ai quelques messages sur le WhatsApp RMC qui vont dans ce sens-là au sujet du député Carl Olive. Merci beaucoup, Yannick. Alors, on parle beaucoup, et on va en reparler ce matin, des dégradations et des violences qu'on a pu voir. On va aussi parler du sportif, Virginie Fulpin. C'est l'heure de la causerie bientôt.
Vous avez préféré quoi, vous, la première ou la deuxième ?
C'est dur.
Il faut choisir. Vous avez un peu de temps pour choisir. Anthony Morel pour C'est déjà demain.
Alors, on connaissait les montres connectées. Vous avez peut-être déjà utilisé les lunettes connectées. L'étape d'après, c'est le collier connecté.
Ah, pourquoi pas.
Bah, voilà. Bah,
quitte à être connecté.
Très chic.
Mais avant cela, en un siècle, la France est passée de 600 000 cafés à 34 000. Une tendance qui n'est pas prête de s'inverser. Bonjour Anne Souyris.
Bonjour.
Vous êtes sénatrice écologiste de Paris.
Et pour sauver ces cafés et les petits commerces, vous avez une idée, taxer les grandes surfaces. On en parle dans une minute sur RMC, RMC Story.
Jusqu'à 7h. 5-7, le Morning RMC.
Élise Dangean, Mathieu Béliard.
Il est 6h44 sur RMC et RMC Story. Très bon réveil.
En un siècle, la France est passée de 600 000 à 34 000 cafés et sans bistrot, pas de lien social. Et sans lien social, eh bien, les gens meurent.
Bonjour Anne Souyris. Vous êtes sénatrice écologiste de Paris et co-signataire avec Marine Tondelier d'une tribune parue dans la tribune dimanche ce week-end. La disparition de nos cafés, un risque existentiel pour nos sociétés, mais pas une fatalité.
Alors, pas une fatalité, vous avez une solution que vous proposez, taxer les grandes surfaces. Comment ça marcherait ?
Alors, vous savez, déjà, les grandes surfaces en hors de la ville, je ne parle pas de ce qui se passe en centre-ville, eh bien, ça a dépeuplé les centres-villes, notamment tous les petits circuits commerciaux qui existaient auparavant se sont vus complètement dépeuplés, et donc les bistrots qui sont aussi partis de cette manière-là. Alors, ce n'est pas toujours le cas dans les villages où il n'y avait déjà pas un centre-ville avec énormément de petits marchés ou quoi, mais quand même. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la réalité, c'est que même ces 10 dernières années, vous avez un dépeuplement complet avec des gens qui aussi n'habitent plus dans les villages à cause de ça, parce que ça n'a plus d'intérêt d'être là. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? C'est que les gens restent chez eux. Et quand la solitude est là, la solitude tue. Vous savez que la solitude tue plus que le tabac et l'alcool en France. C'est une réalité, épidémique qui est relevée par l'OMS actuellement et sur laquelle... Parce que c'est ça la bonne nouvelle, effectivement, on peut lutter. Donc oui,
comment vous voudriez les taxer justement?
Voilà. Alors c'est une taxe qui existe déjà, la TASCOM, qui existe sur les surfaces commerciales, sur l'intérêt en fait commun, donc et des communes. Et l'intérêt, c'est que c'est une taxe que les communes récupèrent pour pouvoir investir pour l'intérêt collectif. Donc là, c'est typiquement un intérêt collectif. Donc l'objectif est une surtaxation de ces hypermarchés qui ont des marges monumentales et qui ont une responsabilité directe quand même de cette histoire-là.
Qui ont des marges monumentales. Ce qu'ils vont vous dire, pardonnez-nous, on les accueille aussi.
Et
par ailleurs, ce sujet des cafés, des bistrots, des centres bourgs, il intéresse particulièrement nos auditeurs.
Absolument.
Mais vous savez ce que va dire Michel-Édouard Leclerc ? Il va dire, si vous me taxez, ça va se répercuter sur le prix, donc sur le pouvoir d'achat des Français, donc sur le panier de course.
On a fait une formidable commission d'enquête sur la question des marges des hypermarchés. Je peux vous dire qu'il y a une marge pour laquelle, si vous voulez inviter d'autres sénateurs, vous verrez que sur ce sujet-là, il y a pas de problème. Ils ont des marges larges. Donc, et en plus, on ne demande pas des taxations phénoménales. Donc non, ça ne les ruinera pas. Ça ne sera pas non plus un coût pour les petites municipalités qui ne peuvent pas payer pour l'instant pour installer des cafés. Donc ça, c'est extrêmement important. Et puis, vous savez, si on donne un petit coup de pouce, après, il y a des endroits où ça s'est déjà fait et où des cafés existent qui sont aussi tenus par la population locale. Donc, il peut y avoir aussi... C'est un entraînement vertueux. Donc, ça existe, par exemple, dans les Landes, il y a des cafés qui existent et qui sont tenus les uns après les autres. Et c'est le centre de la vie locale. Mais... Le centre de la vie locale. C'est très important. Actuellement, on a un vieillissement de la population avec des personnes qui restent complètement toutes seules et qu'on retrouve
morte chez elle seule. C'est ça la réalité quand même de nos campagnes.
Mais est-ce que les grandes surfaces sont vraiment responsables de ça? Parce que vouloir une surtaxation des grandes surfaces, c'est la politique du bouc émissaire. Est-ce qu'elles sont vraiment responsables de la désertion de nos centres-villes et de la solitude, de la question de la solitude?
Alors, de la désertion des centres-villes, c'est complètement sûr. Bien entendu. Alors, franchement, tout le monde, les chiffres le montrent, il n'y a pas de sujet.
Donc, elles doivent payer.
En revanche, payer, ce n'est pas une sanction, c'est une participation. Excusez-moi, ce n'est pas toujours les impôts, ce n'est pas une sanction. Quand vous payez vos impôts, vous n'êtes pas sanctionné. On vous donne quelque chose aussi en échange. Les gens qui travaillent dans l'hypermarché, eux aussi, ils ont le droit à un bistrot dans le village à côté. Donc, ça n'est pas une sanction, c'est vraiment une participation. Et je pense que même un monsieur Leclerc peut arriver à un moment donné à se dire je suis d'accord pour ce type de choses. Moi je le mets au défi, faites-le.
Vous parliez de la solitude.
Je suis pas en train d'interdire
le combat que vous menez en l'occurrence. Bon, quand on sort, si on est dans l'hypermarché, je préfère aller au café, sincèrement, que dans l'hyper. Mais il y a encore une vie sociale. Pourquoi c'est pas Amazon que vous visez? Là, on est tout seul chez soi, enfermé dans une économie numérique. Aussi, on pourrait les taxer.
Parce que il se trouve que le déclencheur, ça a été les hypermarchés à l'extérieur des villes. C'est comme ça. Je veux dire, après, on pourrait imaginer que ça s'élargisse largement. Là, c'est localisé. C'est une participation locale. Et vous savez, la participation, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire que l'hypermarché, il participe de la vie locale. Amazon, non.
Moins. Donc, merci à Thuris. Merci beaucoup, sénatrice écologiste de Paris et cette tribune.
Mais pourquoi pas Amazon, hein? Moi, je ne suis pas en désaccord. Vous m'avez donné une idée.
La disparition de nos cafés, un risque existentiel pour nos sociétés, mais pas une fatalité. C'est cette tribune que vous signez pour sauver nos cafés et bistrots, pour les ranimer parfois. Merci beaucoup. Il est 6h49. Élise, les trois grands titres de l'actu ce matin.
On ne veut plus voir ça n'est pas ça, le foot. Voilà ce qu'a dit Emmanuel Macron hier à l'Élysée devant les joueurs du PSG après leur deuxième sacre en Ligue des Champions. Le président qui promet d'être intraitable avec les casseurs. On rappelle que près de 800 personnes ont été interpellées ce week-end. Dans le Gers, les recherches continuent pour tenter de retrouver la petite Liana, 11 ans, portée disparue depuis sa sortie du collège de Fleurance vendredi après-midi. Un homme de 41 ans a été placé en garde à vue. Et puis des changements en ce 1er juin, et notamment la hausse du SMIC au niveau de l'inflation, plus 2,4%, soit environ 34 euros net par mois.
Il est 6h50. Et c'est l'heure de la causerie. Si on parle beaucoup des débordements sécuritaires autour de ce sacre du Paris Saint-Germain, parlons un peu du sportif, l'histoire du foot qui s'écrit sur RMC, bien entendu. Virginie Fulpin, on revient sur le sacre du Paris Saint-Germain, vainqueur d'Arsenal au tir au but samedi soir.
Et Virginie, c'est une deuxième Ligue des Champions qui est encore plus belle que l'an dernier.
Plus belle parce que plus dure à aller chercher. Alors, vous pouvez tous vous moquer de moi là autour de cette table parce qu'en septembre j'avais dit jamais ils ne réussiront à enchaîner deux victoires de suite dans cette compétition. Ok, je me suis trompée, tant mieux, j'ai envie de dire. Mais en fait ça me semblait tellement dur ce back-to-back, comme on dit, deux victoires de suite avec les plus grands qui y arrivent. Ça veut donc dire que le Paris Saint-Germain fait désormais partie de ce cercle très fermé de 9 clubs en tout, avec des voisins comme le Real Madrid, le Milan AC, Liverpool. Ça vous pose un club et ça me fait taire, ce qui n'est pas plus mal non plus.
Non, on ne veut pas que vous vous taisiez, Virginie. Et non, vous avez raison, ça ne fait que renforcer l'exploit finalement que cette chronique de début de saison. La coupe, elle a été difficile à aller chercher, c'est vrai.
À l'image de la finale. L'an dernier, honnêtement, au bout de 5 minutes, on avait compris que l'Inter Milan ne faisait pas le poids face aux Parisiens. Samedi, au bout de 5 minutes, Arsenal avait marqué. Et vu que les Anglais cadenassent absolument tout, on se demandait bien comment ça pouvait tourner dans le bon sens. Et on a tremblé jusqu'au bout, des tirs au but. Mais au bout du compte, qu'est-ce qui est meilleur? Écraser une équipe qui fait pas le poids ou aller chercher ce deuxième sacre avec la rage au ventre, se battre comme des chiffonniers pour décrocher le Graal? Moi, je penche pour la deuxième solution, personnellement. Et puis, tout au long de la saison, ça n'a pas été un long fleuve tranquille non plus. Il y a eu des merveilles, comme face au Bayern Munich, bien sûr. Mais il y a aussi eu des doutes, comme des défaites en phase de poule. Donc, c'est encore meilleur.
Le PSG qui prouve donc qu'il sait gérer tous ces moments-là, désormais.
C'est là qu'on se rend compte du palier franchi avec Luis Enrique. On va quand même rendre hommage à l'entraîneur, grand artisan de cette deuxième victoire. Cet homme-là, il a connu des difficultés au départ au PSG, il était très critiqué. Il est passé au-dessus et il a fait passer toute l'équipe, tout le club au-dessus. L'an dernier, quand il a conquis la première Ligue des champions du Paris Saint-Germain, c'était magnifique. Mais là, remettre le couvert, quand on a une cible de champion d'Europe sur le dos, ben oui, c'est encore plus fort. Alors j'ai envie de dire que maintenant, il n'y a plus qu'à faire comme Zinedine Zidane avec le Real Madrid, en gagner 3 de suite.
Oui. Merci à tous pour votre soutien. Une fois c'est bien, mais deux fois c'est mieux pour le back-to-back. On revient l'année prochaine pour la troisième.
Voilà. C'est mieux quand c'est lui qui l'a
dit. Et si on prenait une troisième sur le maillot des Bleus déjà, en route là, puisqu'on est gourmand et qu'on a envie de tout. On va parler évidemment du sportif, du football, parce que vous aimez ça et que vous suivez ça sur RMC. 7h10, Jean-Louis Tour, rédacteur en chef du foot sur RMC, en direct avec Apolline tout à l'heure. On va parler de l'autre face de la même pièce, si j'ose dire, du volet sécuritaire avec Frédéric Lauze, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale, à 7h40, avec le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, à 8h30. Mais en fait, c'est surtout avec vous qu'on en parle, avec vous, au 32-16, 6h53.
Et c'est l'heure de C'est Déjà Demain avec Anthony. Alors Anthony, on connaissait les montres connectées, les lunettes connectées. Prochaine étape, le collier connecté, un pendentif couplé à une intelligence artificielle qui suit tout ce que vous faites au quotidien. C'est le nouvel accessoire que les gérants de la tech veulent nous convaincre d'acheter. Ouais. Ça sert à quoi?
À plein de choses. Alors, je vois que Virginie a un magnifique collier. Je suis sûr qu'il n'est pas connecté. Vraiment.
Alors, ça, c'est pas plus que moi.
Vraiment, mais c'est saut 2025. Mais non, l'étape d'après, c'est effectivement d'avoir un pendentif avec de l'IA à l'intérieur. C'est Meta, notamment la maison mère d'Instagram, de Facebook, qui travaille sur le sujet. Ça servirait notamment, à enregistrer et analyser tout ce qui se passe autour de moi tout au long de la journée. Je ne sais pas si on a vraiment envie d'avoir ça, mais en tout cas, le projet est le suivant. Donc en gros, on porte ça soit en pendentif, soit en forme de pins qu'on va pouvoir clipser à un t-shirt, à une chemise ou à une veste. Et donc, il va tout au long de la journée, grâce à des micros embarqués, des petits capteurs, analyser tout ce qui se passe autour de moi. Donc, par exemple, je sors d'une réunion, il va pouvoir me faire le résumé de la réunion. Je lui dirai, je ne sais plus, Jean-Michel, il a dit quoi déjà pendant la réunion? Hop, et il va, voilà, il faut parler avec son collier, ce qui est aussi un concept, évidemment. J'ai oublié.
Enfin, les gens parlaient déjà dans leur barbe un peu.
Oui, c'est vrai. C'est l'extension finalement de ça. Je me souviens plus. Il y a 3 mois, j'avais rencontré un gars. Il était intéressant. Il m'avait raconté. Il était vigneron. Tu peux me rappeler qui c'était exactement? Qu'est-ce qu'il m'avait dit? Vous allez avoir le résumé de votre conversation. J'ai perdu mes clés. Hop, c'est le petit collier qui va me dire t'as perdu tes clés. À 12h50, tu les as oubliées. Là, c'était sur le canapé, tout simplement. Tu peux retourner les récupérer. Donc voilà. En gros, le principe, c'est d'avoir une sorte de mémoire externalisée qu'on va pouvoir solliciter à chaque instant.
Si je vous l'offre, ça va dire c'est un mouchard.
Ça peut être un mouchard aussi. Non mais c'est tout l'enjeu. C'est-à-dire vraiment, c'est où est-ce que, en termes d'acceptabilité sociale, jusqu'où on accepte d'aller en termes, avec l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur le chemin d'une IA qui méthodiquement va voir tout, entendre tout et se souvenir d'absolument tout. On avait déjà les lunettes qui vont très très loin avec des fonctionnalités qui vont aller jusqu'à la reconnaissance faciale. Mais avec ce petit collier connecté, ça ajoute encore une brique d'intrusion supplémentaire. Je suis pas convaincu à titre personnel.
Merci Anthony Borel. Elle a pas besoin de collier parce qu'elle se souvient de tout. C'est Apolline. Bonjour Apolline.
Ça dépend. Parfois, il y a des petits trous quand même. Enfin, globalement, ça fonctionne encore un petit peu. Salut à tous. Excellent lundi. Évidemment, on va revenir sur ces violences. Violences qualifiées d'inqualifiables, justement, par Emmanuel Macron. Après la victoire du PSG samedi soir, la fête a été en partie gâchée. On revient largement sur cet événement ce matin. On attend vos témoignages, vos réactions. Vous nous appelez au 3216 pour nous dire ce que vous en avez pensé, ce que vous en avez vu, peut-être. Ou vos messages sur le WhatsApp d'RMC 0612. 424, à tout de suite.
Jusqu'à 7h, 5-7, le Morning RMC.